Europe Matin Weekend.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette matinale week-end. On repart pour un tour ce matin avec des élections législatives qui se profilent en Italie toute la journée. On en parlera dans nos journaux et puis on se demandera si Julien Alaphilippe peut être champion du monde de cyclisme sur piste pour la troisième fois. La course est en cours. On vous tiendra au courant. On aura de l'évasion également aujourd'hui au programme puisque je reçois le navigateur Francis Joyon à 7h10 à quelques semaines du départ de la route du Rhum dont il est tournant du titre. Pour la conso, on va parler de petites bêtes. Votre poulet nourri aux grains et aux insectes, ça c'est déjà le cas. Et puis Valérie Darmon se demandera s'il faut vraiment casser son PEL pour pouvoir soigner ses dents. Notre balade du dimanche va nous emmener aujourd'hui à la découverte de Cherbourg. Et Olivier Pouls, pour sa petite recette du dimanche, nous aidera à cuisiner des couteaux. Soyez les bienvenus, vous réagissez sur les réseaux sociaux. On a mis déjà quelques photos. On est très heureux de vous savoir avec nous. Et merci d'écouter Europe 1, il est tout pile 6h.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Et à 6h, pour le premier journal, on retrouve Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Léna Aigmonier, bonjour à tous. La droite va-t-elle arriver au pouvoir en Italie? Les bureaux de vote ouvrent dans une heure. Giorgia Meloni et son parti néo-fasciste sont donnés favoris de ces élections législatives qui ne passionnent pas l'ensemble du pays. Reportage de notre envoyé spécial dans un instant.
En France, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. Le leader des Insoumis espère que la carrière de son dauphin, Adrien Quatennens, ne sera pas brisée malgré sa mise en retrait pour violence conjugale.
Et puis Charles III va-t-il pouvoir rendre le Royaume-Uni aussi vert que les pelouses écossaises? Pas sûr que le nouveau roi puisse imposer ses convictions écologiques.
Dans la prochaine demi-heure, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes aujourd'hui. On mangera, je vous le disais, des insectes avec Clément Ray, président et cofondateur d'InnovaFeed. Ce sera pour l'interview conso, mais avant cela, une toute première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Eh bien, ça s'améliore sur le pourtour méditerranéen. C'est plus nuageux avec quelques averses ailleurs et des températures légèrement sous les normales de saison qui vont rebaisser cette semaine.
Et on détaille tout ça à la fin du journal. Clotilde, les droites sont donc aux portes du pouvoir en Italie.
Et les élections législatives sont observées de près par la Commission européenne qui pourrait vite avoir du mal à s'entendre avec un potentiel gouvernement conservateur et souverainiste. Dans les derniers sondages, Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia sont donnés en tête avec 25% des suffrages, quelques points devant le parti démocrate. Avec les scores de la Ligue de Matteo Salvini et de Forza Italia de Silvio Berlusconi, une coalition de droite pourrait donc accéder au pouvoir. Reportage à Rome de notre envoyé spécial Frédéric Michel.
En Italie, cette élection ne suscite pas un engouement majeur. Les meetings des différents partis n'ont pas rassemblé de grandes foules. L'abstention pourrait être importante. Ce restaurateur romain a bien l'intention de profiter de son dimanche.
Je pense que je ne voterai pas car il n'y a personne qui me représente. On dit que la droite gagnera. Je ne sais pas si elle est extrême, comme le disent certains, ou si c'est un argument marketing monté par la concurrence plutôt qu'une vraie extrême droite.
Sans conviction, ce retraité ira tout de même déposer un bulletin dans l'urne.
J'irai voter, bien sûr, c'est important, en espérant que l'Italie reste encore un pays.
Si Giorgia Meloni l'emporte, elle deviendra la première femme à diriger l'Italie. Ce serait une grande victoire pour l'extrême droite, mais pas la première. Souvenez-vous, il y a 4 ans, de la montée de la Ligue avec l'arrivée au pouvoir en tant que vice-premier ministre de Matteo Salvini. Demain, l'union des droites devrait permettre au parti post-fasciste Fratelli d'Italia de l'emporter avec ses partenaires de la Ligue et de Forza Italia, comme le souhaite Marisa.
J'irai voter car je ne suis pas satisfaite de notre situation, j'aimerais mieux vivre. Je suis quelqu'un qui paie ses impôts et donc j'exige que les services fonctionnent, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. On a beaucoup de désordre public, beaucoup de chaos à tous les niveaux. Ce changement, c'est la droite qui le représente.
Et les bureaux de vote fermant à 23h ici en Italie, les résultats sont attendus dans la nuit.
Le reportage de Frédéric Michel pour Europe 1.
En France aussi, la gauche est en difficulté.
Empêtrée dans une polémique pour avoir soutenu Adrien Quatennens après sa mise en retrait pour cause de violence conjugale, Jean-Luc Mélenchon s'est expliqué hier soir sur France 2 et le chef des Insoumis continue de défendre malgré tout le député du Nord.
Je pèse tous mes mots depuis le début. J'accepte qu'on me critique, j'accepte même que des gens me condamnent parce que je préfère ça que l'indifférence. Adrien Quatennens a donné cette gifle, il s'en est excusé, il l'a avoué, c'était il y a un an. On doit tenir compte du fait que cet homme s'amende en public, qu'il est dans une procédure de divorce, et que toute la France se mêle de son divorce. Et je souhaite moi, de toute façon, qu'il revienne dans le combat politique. Parce que c'est un homme, nuit et jour, au boulot, qui a cramé sa vie, qui a cramé sa jeunesse. Alors, on peut toujours dire, ouais, c'est un député, etc. Non, il y a tous ces états de service. Elle, Céline, vous la considériez comme une victime. Vous lui avez demandé à elle si elle se pense victime. C'est drôle, hein. Depuis 8 jours, impossible d'appeler à la marche, impossible de parler de la marche du 16 octobre. Y a-t-il un lien entre l'affaire Quatennens et la réforme des retraites? Aucun a priori. Quand on cherche, comme Emmanuel Macron, un trou de souris pour faire passer sa réforme, tout bouger dans le paysage politique intéresse. Je mets tout le monde au pied du mur.
Alors justement, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont réunir la semaine prochaine les chefs de la majorité et les ministres concernés pour parler de la réforme des retraites.
Elle sera faite, assure Gabriel Attal, le ministre délégué aux comptes publics dans le journal du dimanche. Mais le premier gros rendez-vous de la semaine, ce sera la présentation du budget 2023. Ce sera demain en Conseil des ministres.
Avec une mesure qui devrait faire partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est l'ajout d'une 4e année d'études pour les internes de médecine générale.
Ils seront encouragés à aller dans les déserts médicaux, mais la mesure fait déjà grincer des dents Élise Frey. Elle est présidente du regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants.
Avant de penser à une 4e année, il faudrait déjà consolider les 3 premières. Garantir aux gens de pouvoir faire beaucoup de stages en milieu ambulatoire, donc non hospitalier, pour qu'ils soient familiers avec ça, mais augmenter aussi les formations à la gestion d'un cabinet, à savoir en fait tout ce qu'il faut faire comme démarche administrative, à gérer ses charges, qui promeuvent des logements dans les territoires, c'est une excellente idée pour augmenter la couverture médicale dans les territoires. Par contre, si les lignes rouges ne sont pas garanties, c'est-à-dire qu'en fait l'interne est seul dans un territoire qui est plutôt mal doté en médecins, qu'on lui promet peut-être une supervision par un maître de stage, mais qui n'a peut-être d'ailleurs lui-même pas d'expérience ou qui est débordé, vous pouvez mettre toutes les aides incitatives, l'interne n'aura pas envie d'y aller.
Le docteur Frey interrogé par Louise Douillet. Et puis un autre projet de loi, cette fois sur l'accélération des énergies renouvelables, doit aussi être présenté demain en Conseil des ministres.
Les énergies renouvelables et l'environnement, thème très important aux yeux du nouveau roi des Britanniques.
À tel point que la vieille Aston Martin de Charles III roule avec un bioéthanol à base de vin et de petit lait. Alors au-delà de cette anecdote, Stéphane Place, les convictions du nouveau monarque peuvent-elles vraiment influencer le Royaume-Uni ?
Le fils d'Elisabeth II défend le bio, ne mange de la viande que certains jours, publie son propre bilan carbone annuel. De là à imaginer que le souverain va peser sur les orientations du royaume pour accélérer la transition écologique, Simon, engagé en politique et fervent défenseur de l'environnement, n'y croit pas beaucoup.
Personnellement, je pense que Charles III ne pourra pas contribuer efficacement en matière d'écologie en tant que roi d'Angleterre. Il a longtemps été le défenseur des problèmes environnementaux, mais la monarchie au Royaume-Uni est supposée être politiquement neutre. Donc il trouvera sûrement ça difficile d'alerter sur les enjeux climatiques.
Jeune militante écolo, Marie ne voit pas Charles III comme un roi moderne, capable de remettre en cause le système qui, dit-elle, a tant abîmé la nature.
Je ne crois pas vraiment en Charles d'un point de vue environnemental. Pour moi, Charles est la figure de proue d'une institution désuète, enracinée dans le colonialisme et qui fait beaucoup plus de mal en existant que de bien.
Charles III qui parle aux plantes, mais dont le règne commence avec un gouvernement qui n'exclut pas de recourir à la très polluante extraction de gaz et de pétrole de schiste. Londres, Stéphane Place, Europe 1.
Et à 6h07 sur Europe 1, on parle de foot. Dernier match pour les Bleus avant le Mondial au Qatar.
L'équipe de France affronte le Danemark ce soir en Ligue des Nations. Après leur victoire jeudi face à l'Autriche, les hommes de Didier Deschamps veulent finir en beauté malgré les nombreuses blessures. Ils vont donc affronter les Danois, Cyril de la Morinerie, autant fan de vélo que de football.
Oui, au pays du vélo, dans la capitale danoise qui a accueilli le grand départ du Tour de France 2022, l'équipe de France de football veut changer de braquet. Après avoir déraillé en juin, notamment face aux Danois, les Bleus veulent confirmer la belle impression laissée jeudi dernier. Et ce soir, c'est en quelque sorte une petite finale, une victoire. Et les Français seraient assurés de rester au sein de l'élite de la Ligue des Nations la saison prochaine. Mais Raphaël Varane voit beaucoup plus loin. Il pense déjà à la Coupe du Monde, car ce soir, c'est le dernier match des Français avant la compétition reine, rappelle le capitaine des Bleus.
Pour moi, l'objectif, c'est de se préparer. Il n'y aura pas de match amicaux avant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, chaque minute sur le terrain, chaque match, ça compte pour l'objectif Coupe du Monde.
Quant aux affaires extrasportives qui entourent ce rassemblement, Didier Deschamps assure que rien ni personne ne peut perturber sa tranquillité. Un match très attendu ici, le stade sera plein ce soir. Le demi-finaliste du dernier Euro sera soutenu par son public, habillé de rouge et de blanc.
Le Danemark face à la France, ce sera à partir de 20h45 à suivre en direct dans Europe 1 Sport. Et puis toujours en Ligue des Nations, la Suisse a surpris l'Espagne hier de buts à 1. Elle tentera de se qualifier pour le carré final contre le Portugal, ce sera mardi soir.
Merci Clotilde Dumais, à tout à l'heure.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Valérie Darmon, le calme revient tout doucement. Hein ?
Oui, effectivement, tranquillement, progressivement, avec des averses orageuses qui affectent encore un petit peu la Corse ce matin, avant de s'atténuer progressivement. Autour du golfe du Lion, le temps qui est plus sec, évidemment. Le soleil qui refait de très belles apparitions cet après-midi pour laisser la place à un parfait ciel bleu, contrairement à hier. Sur le reste de la France, le ciel qui est toujours nuageux, voire très nuageux, avec des averses passagères toujours plus fréquentes près de la Manche et sur les reliefs de l'Est. Sur les Pays de la Loire, le bassin parisien, le Grand Est. Vous connaissez aussi de petites pluies fines bien désagréables, façon crachin, façon bruine, à tout ce qu'on aime bien. Et dans l'après-midi, les averses qui s'espacent et les nuages qui laissent percer de très vagues éclaircies. On va rester optimiste.
Il fait un peu froid quand même, non ?
Il fait plutôt frais que froid. Ouais. Froid, ce sera plutôt au milieu de semaine, mais bon, quand vous êtes un petit peu comme ça, un petit peu enrhumé, voilà. Hein, vous parlez un petit peu du nez comme ça. Bon, pas trop. Alors, il fait 8 ce matin à Abbeville, 10 à Cognac et Bordeaux, ainsi que Besançon, 11 à Toulouse, à Strasbourg et Paris, 12 à Biarritz et à Nantes, 14 à Montélimar et à Nîmes, 17 à Nice pour ce matin et la fourchette des maximales entre 15 à Saint-Étienne et 23 à Marseille et on est sous les normales de saison.
Merci Valérie, rendez-vous à 6h30 dans un instant, bien fait pour vous. Et puis à 6h20, la question conso, à quand les insectes dans nos assiettes? Et bien vous verrez que c'est déjà le cas. Mais avant tout cela, l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour les Naïcs, c'est à Vincennes que va se courir ce quintet. Une course au trot attelé qui réunira 16 chevaux âgés de 7 à 10 ans sur la distance de 2850 mètres. Et j'ai placé en tête de mon pronostic French Way of Life, le numéro 14, et Fougue du Dollar, le numéro 11. Les deux seules juments au départ de ce quintet à oser défier les mâles. Mais sachez qu'elles n'ont rien à leur envier. Et comme je les sais en parfaite condition physique, actuellement le matin à l'entraînement, elles ont pour moi toutes les deux les moyens de disputer activement les premières places. On leur opposera les numéros 5, Dick des Malbereaux et 2, Dacereau, indissociables puisqu'ils viennent de conclure respectivement 2e et 3e d'une épreuve similaire le 3 septembre à Vincennes, sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront cet après-midi, avec Express de Liton, le numéro 16, idéalement engagé au plafond des gains et qui, à l'issue d'un parcours caché, me semble être une belle possibilité pour accrocher une place à une cote spéculative. Enfin, les numéros 13, Fabulous Dream, 12, Easy Mazza et 4, Rocky Tilly, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, 11, 5, 2, 16, 13, 12 et 4.
Merci beaucoup Thierry Léger, bon dimanche.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Et les filles qui vous aident à prendre soin de vous, les meilleurs moments de l'émission Bien fait pour vous, qui se déroule, hein, vous le savez, tous les matins du lundi au vendredi. Elles se demandent toutes les deux, Mélanie et Julia, si on peut tous être humoristes.
Docteur Dib, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, on rit moins qu'avant? À quoi c'est dû? C'est super triste si c'est vrai qu'on a baissé le nombre de minutes de rire par jour.
Je pense qu'effectivement qu'on rit beaucoup moins parce qu'en fait, il y a à peu près 50 ans, on riait trois fois plus que maintenant. Je pense que c'est lié plutôt à des problèmes culturels, à des problèmes d'évolution de société, où parfois, c'est propre pour la France, hein, parce que c'est différent entre différents pays. C'est en fait, parfois, c'est mal vu de rire. Certaines personnes considèrent quand on rit, soit on se moque d'eux, soit que les gens devant eux ne sont pas sérieux. Et donc, du coup, on a peu d'occasions socialement de rire.
Parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas s'empêcher de rire. C'est le système du fou rire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est un réflexe, le fou rire. C'est-à-dire comme le réflexe de respirer, comme le réflexe de sortir de l'eau quand vous êtes sous l'eau. Donc, c'est un réflexe qui va d'un seul coup activer cette structure qui fait le tour du cerveau, qui est une structure limbique. Alors, pourquoi ça s'active, la question? Vous activez le réflexe de manger quand vous avez faim. Là, en fait, parce qu'il y a une forte émotion qui monte. Et des gens qui utilisent le riz pour vider leurs émotions. Donc, il y en a des gens qui rient quand ils sont très stressés. Il y a des gens qui ont des fous de rire quand ils sont vraiment admiratifs de ce qu'ils voient.
Perrine Blondel, on dit que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans?
Oui, sans doute, parce que le rire, ça permet de désamorcer beaucoup de situations, de dédramatiser. Tout à l'heure, vous disiez on rit moins qu'avant. Sur tout ce qui est les gens dont c'est le métier, il y a aussi beaucoup de choses qui ont déjà été faites et on cherche toujours à se renouveler. Et en cherchant à se renouveler, bah, finalement, il y a des facilités qui disparaissent un peu parce qu'on se dit que les gens les ont déjà vues, mais on change de génération et peut-être que l'humour d'il y a 50 ans... plairait, enfin...
C'est comme la mode, en fait, ça revient aussi, l'humour,
c'est ça? Je pense qu'il y a un peu de mode, ouais. Et
par exemple, les jeux de mots, c'est encore la mode, ça? Moyen, non?
En ce moment, on n'est pas trop sur une année jeux de mots.
Ouais, c'est ça. Parce que moi, mes parents regardaient Raymond Devos.
Sauf que...
On adore.
Sauf que, justement, un jeu de mots bien amené, en montrant que c'est un jeu de mots et en prenant le second degré du jeu de mots,
bien
là,
fait
ça
pour
devient...
Vous, c'est un bon titre, non?
Bien fait pour vous.
C'est magnifique. Bon, vous voyez, je n'oserais pas dire le contraire.
Vous venez de dire il y a deux secondes que c'était pas l'année des jeux de mots.
J'ai l'impression qu'on est des gros ringards.
Non, parce qu'il y a du second degré, vous en avez conscience, donc tout va bien.
Bon, ça va.
C'est assumé.
Alors, on parlait aussi du rire pour évacuer quelque chose. Le rire qui est lié à l'émotion. Est-ce que vous constatez, Perrine, des gens justement qui prennent de la distance, qui soignent quelque chose grâce à l'humour à l'académie?
Ouais, ça pour le coup c'est tout à fait à la mode. Il y a un gros mouvement dans les humoristes de partir de soi et d'utiliser un peu son vécu pour... Souvent on va faire rire quand on crée un lien avec le spectateur et donc plus on part de soi, plus on va toucher l'universalité et on va toucher plus de gens.
Vous voulez dire quand on est très sincère, je pense par exemple
exactement.
À une Blanche Gardin qui raconte exactement. Les méandres de ce qui lui arrive, etc. On est dans son intimité et ça fait rire?
Bah, ça fait rire parce que les gens se reconnaissent et donc forcément c'est parce qu'ils se reconnaissent qu'eux en rient et c'est là où on touche aussi son propre public. L'humoriste ne va pas essayer de toucher tout le monde. Et pour revenir à votre question que j'ai oubliée entre-temps...
Est-ce que je peux vous dire la vérité? Je ne sais plus ce que...
En présence de ces deux poissons rouges, on va passer à Clément Lanoux. Vous venez tous les jours dans notre émission pour essayer de nous faire rire sur des sujets qui ne sont pas forcément drôles au départ.
Je vous le confirme.
On vous avait donné les algues, par exemple, il y a quelques semaines, ce n'était pas évident. Pour vous, ça, je ne sais pas, trouver des bonnes blagues, faire de l'humour sur ces sujets-là, c'est un moyen aussi de les dédramatiser. Parfois, on parle même de la mort dans cette émission.
Alors, c'est génial pour justement aborder des sujets. Il y a quelques jour, on a eu le handicap, le sport dans le handicap. Donc
c'est une de vos chroniques les plus drôles d'ailleurs, j'ai trouvé.
Ce qui n'est pas évident non plus, parce que quand il y a des personnes en face qui souffrent de ce handicap, on ne connaît pas leur passé forcément, on ne connaît pas leur sensibilité. Donc c'est plus dur, il faut se mettre à la place de tout le monde, des gens qui ont envie de se marrer de ça, de ceux qui en souffrent, et de se dire tiens, on va essayer de composer comme une recette de cuisine pour que tout le monde, si on est allergique à ça, pour que tout le monde aime ce qu'on est
donc
en train de faire.
C'est du boulot quand même en fait de
on
faire rire.
Pas, hein.
Ouais. C'est un sacré boulot. On peut aussi parler d'une forme d'humour qui est l'humour dépréciatif, par exemple, quand on se moque de soi-même. Ça sert à quoi ça, docteur?
Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à dédramatiser la situation. Parce que, par exemple, imaginez que vous avez fait quelque chose de vous avez été chez McDonald's manger.
Oui, tous les dimanches.
C'est grave. Donc, quand vous parlez de ça, vous allégez l'impact de ce que vous avez fait. Et donc, en fait, vous dédramatisez, vous traitez le stress qui accompagne ça. Et puis, les gens pour moi, c'est un signe d'élasticité psychologique. Mm-hmm. Les gens qui savent se moquer d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'accepter. Mm-hmm. Et ça, c'est très important.
Ils ont un meilleur cerveau que les autres, vous pensez?
Ils sont beaucoup plus résistants à la dépression, à l'anxiété. Il y a beaucoup de maladies psychiatriques aussi. Et c'est un signe de maturité. Parce que vous êtes capable de passer, vraiment dire ce qui peut les autres considérer comme défaut pour vous. Vous êtes mature.
Clément, comment vous faites en spectacle, justement? Vous disiez donc que vous adaptiez, que vous essayez de penser au plus grand nombre quand vous écrivez des sketchs. Vous dites, bon, voyons, alors lui, je ne sais pas ce qu'il a dans son passif, etc. Mmh. Mais bon, essayez de faire plaisir à tout le monde. Mais quand vous voyez justement que vous faites un spectacle et que les gens dans la salle, ça a dû vous arriver peut-être, ne sont pas hyper réceptifs, vous changez le texte en cours de route, même une fois sur scène?
Ça m'est arrivé une fois où vraiment, alors j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, je pense. Il y a eu un problème dans l'annulation, je devais jouer à 20h30. On m'a dit, attends, j'y suis allé à 23h, restait 6 personnes. Qui me regardait avec compassion, qui voulait m'aider, mais 6 personnes au lieu de 200, il n'y avait plus personne et j'ai joué quand même et j'avais envie que ça passe très vite et je me suis dit c'est vraiment une thérapie, c'est un vrai moment où on est, en tout cas sur le one man show, on est en chute libre, on est seul avec soi-même et je me dis soit l'heure qui va arriver elle va être horrible, si je veux qu'elle devienne géniale, il n'y a que moi qui peux la rendre géniale.
Et
c'est une force en plus, sinon je ne le raconterai pas évidemment, mais du coup on est seul face à soi-même et c'est un super exercice de confiance, d'humilité aussi, de se dire je vais aller là, je vais faire ça, c'est juste génial en fait.
Pour moi, les gens qui font, veulent faire rire les autres, c'est des gens extrêmement sensibles. Je ne vous envoie pas de fleurs, mais c'est des gens bien qui ont... Donc, en fait, c'est un acte de générosité de vouloir faire rire les autres, qui parfois n'est pas compris, comme tout dans la vie. Quand vous êtes donné des cadeaux gratuits, ce n'est pas toujours apprécié.
Merci.
Et bien fait pour vous que vous retrouvez du lundi au vendredi, de 11h à midi, et évidemment sur Europe1.fr.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
À 6h19 sur Europe 1, on fait le point sur toute l'actu avec Clotilde Dumais. Clotilde.
Près de 500 000 foyers sans électricité, des arbres arrachés et des maisons emportées. L'ouragan Fiona a frappé la côte atlantique du Canada. Deux femmes ont été emportées par les eaux. L'une d'elles est toujours portée disparue. Des précipitations allant jusqu'à 192 mm ont été enregistrées en Nouvelle-Écosse. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau précise que les autorités fédérales se tiennent prêtes à fournir aux provinces des ressources additionnelles. Jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui refusent de combattre. Vladimir Poutine durcit les sanctions face aux déserteurs. En pleine mobilisation des réservistes pour aller combattre en Ukraine, le chef du Kremlin a également signé une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers qui s'engagent dans l'armée pour au moins un an. Mais en Russie, des manifestations s'organisent pour protester contre cette mobilisation. Au moins 700 contestataires ont été interpellés. Et puis en top 14, Toulouse est en tête du classement après une victoire 37-10 face au Racing 80. Juste derrière, démonstration des Montpelliérains, 43-17 contre Pau. Et puis, troisième défaite en 4 journées pour Bordeaux, qui a trébuché à Bayonne.
Merci Clotilde. Est-ce que vous vous voyez manger des barres protéinées à base d'insectes? Et si c'était ça l'avenir? Même sans le savoir, les petites bestioles sont déjà dans vos assiettes. J'en parle avec Clément Ray, président et cofondateur d'InnovaFit, dans un instant. A tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
L'interview conso nous emmène dans la Somme ce matin où se trouve la start-up InnovaFeed, entreprise qui élève des insectes destinés entre autres, je dis bien entre autres, à l'alimentation des animaux d'élevage. Bonjour Clément Ray.
Bonjour.
Alors vous êtes le cofondateur d'InnovaFeed. Quand je vais aller chercher mon poulet au marché tout à l'heure, il aura peut-être été nourri par des petites larves?
Effectivement, ce qu'on essaye de faire chez InnovaFeed, c'est de contribuer à construire un système alimentaire plus durable. Et l'idée à la base de la création du projet, c'était de réintroduire l'insecte sur la chaîne alimentaire et de lui redonner exactement la même place qu'il a dans la nature. Dans la nature, l'insecte a pour rôle de recycler des déchets et de réinjecter des nutriments dans la chaîne alimentaire pour nourrir des oiseaux, des petits poissons, des mammifères.
Alors moi, je suis un peu naïf, je pensais que les poulets, par exemple, ne mangeaient que du grain. Il y a des protéines également dans leur système alimentaire?
Les poulets, les volailles, dans basse-cour, mangent des vers de terre.
Les
oiseaux se nourrissent essentiellement de petits insectes. Les truites se nourrissent essentiellement d'insectes. Les saumons dans les rivières également. Les crevettes mangent des insectes. C'est vraiment en fait un maillon très important de la chaîne, de la chaîne alimentaire dans la nature. Et c'est un maillon qui est en fait un maillon de circularité parce que c'est... Et l'insecte, ce qui va convertir des déchets en nutriments. Et c'est quelque chose qu'on avait un petit peu oublié, dont aujourd'hui on a besoin si on veut réduire l'impact carbone de notre système alimentaire et de réduire son impact sur la biodiversité.
C'est même quasiment plus vertueux, puisqu'effectivement on revient à une alimentation qui se trouve effectivement, comme vous le disiez, les poules mangent des asticots. C'est quand même plus logique de leur fournir des insectes que toute autre forme de protéines finalement.
C'est vraiment ce qui est à la base de la vision. Ça se traduit également quand on regarde les chiffres dans le détail par moins d'impact environnemental. Lorsqu'on remplace, par exemple, des farines de poisson ou des sojas dans l'alimentation des poissons par des protéines d'insectes, on divise par deux l'empreinte carbone de ces ingrédients. Et donc ça, je vraiment la donne. Il y a des enjeux très, très importants parce qu'aujourd'hui, et on l'oublie, 25% des émissions de CO2 au niveau mondial sont liées à notre alimentation. Et si on veut respecter en fait une trajectoire carbone qui est acceptable, il va falloir qu'on réduise de façon drastique cette empreinte carbone.
Alors quel intérêt pour les éleveurs? Il y a une idée de coût également?
Alors oui, je pense que la vision qu'on a depuis le départ, c'est de construire un modèle compétitif à très grande échelle. Parce que sinon, à partir du moment où on reste niche, on limite l'impact qu'une innovation peut avoir. Et on a la conviction que si on veut vraiment changer le système, on a besoin d'atteindre une échelle critique. Et donc, c'est ça qu'on a développé depuis le départ. C'est une technologie de rupture qui permet d'élever des insectes de façon très automatisée et un modèle économique qui, par son intégration dans les chaînes de valeur agricole, permet d'avoir des produits très compétitifs et permettre aux éleveurs d'avoir de produire de façon aussi compétitive qu'ils en avaient l'habitude, mais plus qualitatif.
Alors vous avez levé 250 millions d'euros dernièrement, ce qui montre bien que les investisseurs également croient à ce projet. Quelle est la prochaine étape pour vous ?
Alors, la prochaine étape sera de continuer à développer nos technologies. Il faut savoir qu'en fait, il y a énormément de choses à inventer pour pouvoir rendre cette idée très, très simple sur le papier, mais très, très complexe d'un point de vue technologique. Il faut qu'on développe les meilleurs souches d'insectes, il faut qu'on arrive à faire de la robotique. Sur notre site, dans la Somme, on est capable de collecter 20 000 œufs d'insectes chaque seconde, et ça ne se fait pas de façon manuelle, et tout doit se faire de façon automatisée. On a une équipe de 250 ingénieurs et docteurs qui travaillent sur le développement de cette technologie. Et cet argent réuni va nous permettre de continuer à investir dans la technologie, va nous permettre d'étendre notre capacité de production en France et va permettre également de nous internationaliser, parce qu'on va poser la première pierre cette année, notre premier site aux États-Unis, où on va également exporter cette technologie avec la vocation d'avoir un impact plus global.
Alors, est-ce qu'il y a aussi la volonté de sortir peut-être des animaux d'élevage ? Moi, j'ai un chat, par exemple. Est-ce que je vais demain lui donner des croquettes aux insectes ? Ça existe,
oui, c'est déjà
ça
cas,
commence.
En fait.
Hein,
c'est déjà le cas. C'est un marché important qui se développe de façon très, très forte, avec des marques comme, par exemple, Tomojo et Kinoe, qui sont disponibles en magasin et qui sont nos clients. Et la proposition de valeur est forte parce que les aliments pour chiens et chats sont à la fois de meilleure qualité, complètement traçables, mais aussi avec beaucoup moins d'empreintes sur l'environnement que les autres ingrédients. Et ça, c'est un marché d'aujourd'hui. Les marchés de demain seraient potentiellement l'alimentation humaine, mais oui, on a encore en fait énormément de place à adresser. De déployer nos ingrédients sur toutes les filières de l'aquaculture, les filières de nutrition animale et de nutrition des chiens et des chats.
Sur l'humain, justement, ça pourrait se traduire pour les sportifs, par exemple, des barres hyperprotéinées. Là aussi, on pourrait trouver des alliages un petit peu différents.
Oui, c'est un des segments de marché qui nous intéresse. Un peu plus moyen terme, mais on sent une dynamique très, très forte dans cette direction. La proposition de valeur de l'insecte est bonne. Hein. On a la moitié de l'empreinte environnementale des protéines végétales. On a des propriétés nutritionnelles qui sont meilleures que celles des protéines végétales. Mm-hmm. Et donc, je crois tout à fait en fait à l'intégration dans les années à venir de protéines d'insectes dans des barres énergétiques, dans la nutrition pour les sportifs, ou même en fait dans ce qu'on appelle aujourd'hui des analogues de viande, donc des steaks qui sont faits aujourd'hui avec des protéines végétales, mais dans lesquelles on pourrait aussi intégrer des protéines d'insectes.
Voilà, et c'est une question d'avenir, évidemment, qu'on se pose tous hein, en ce moment, consommer moins de protéines animales, notamment, et donc avec ces insectes. Merci beaucoup Clément Rey, merci d'être venu sur Europe 1 nous en parler. Je vous rappelle que vous êtes cofondateur d'InnovaFeed et que vous vous êtes donc lancé dans cette grande aventure de l'insecte. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
On est ravis que vous ayez choisi Europe 1 pour vous réveiller avec nous. On vous souhaite bon courage si vous allez travailler. Il est 6h30, on retrouve Clément Barguin pour Le Journal. Bonjour Clément.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Il accuse l'Occident d'une russophobie grotesque. Le ministre des Affaires étrangères russe s'est exprimé à la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU.
La colère gronde un peu partout dans le monde en soutien aux femmes iraniennes qui manifestent pour leur droit à la liberté. Rassemblement d'ailleurs qui était organisé à Paris hier.
Et puis ça y est, l'automne s'installe et avec lui l'envie de manger des plats réconfortants comme la choucroute, mais avec la sécheresse, la récolte s'annonce décevante.
Au programme de la prochaine demi-heure, Philippe Legrand s'entretient avec l'académicien Jean-Marie Roy à quelques jours d'une possible révision du procès d'Omar Radad. Et puis on ira pêcher et manger des couteaux dans le Cotentin après un petit détour par la gare maritime de Cherbourg, élu monument préféré des Français. Mais avant cela, la tendance, Valérie Darmon.
Eh bien, Cherbourg et la Bretagne sous la pluie, mais le soleil qui revient sur le pourtour méditerranéen, un petit peu moins sur les Alpes-Maritimes et partout ailleurs. Il fait gris et pluvieux de toute façon.
Météo complète à la fin du journal. Clément, c'était une prise de parole attendue. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, il s'est exprimé hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Oui, comme une provocation, il a vivement critiqué l'attitude des pays occidentaux. Wilfried De Villers, que retenir de cette allocution de Sergueï Lavrov ?
Dès le début de sa prise de parole, le ministre russe des Affaires étrangères a directement dénoncé la russophobie sans précédent des Occidentaux qui veulent faire, dit-il, disparaître la Russie, jugée trop indépendante. Il affirme même que Washington et Bruxelles ont provoqué la guerre en Ukraine. Sergueï Lavrov est également revenu sur la tenue des référendums d'annexion actuellement en cours dans 4 provinces du sud et de l'est de l'Ukraine, ironisant sur les condamnations européennes et américaines et défendant la légitimité des scrutins. Le chef de la diplomatie réaffirme de nouveau la souveraineté russe sur ces territoires, comme l'explique le spécialiste des questions internationales, Patrick Martin-Genier.
Il est en train de dire qu'il va considérer que toute agression contre ces républiques fédérées, intégrée à la Fédération de Russie, sera considérée comme une agression contre la Russie. C'est donc la réitération d'une menace de l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine. Donc c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant.
Et quand un journaliste lui pose la question d'une possible utilisation de l'arme nucléaire, Sergueï Lavrov répond simplement « Nous avons une doctrine nucléaire, vous pouvez la lire, elle est extrêmement clair. Plus tôt dans la semaine déjà, Vladimir Poutine assurait que la Russie utilisera tous les moyens nécessaires pour se protéger.
Les explications de Wilfried De Villers pour Europe 1. Dans le même temps, Vladimir Poutine a signé hier un décret prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui se rendent ou refusent de combattre en période de mobilisation.
Toujours dans l'actualité internationale, une autre mobilisation, celle contre le régime iranien.
Depuis plusieurs jours dans le pays, les protestations se multiplient après la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs. Elle est morte 3 jours plus tard à l'hôpital. Hier, une manifestation en soutien aux femmes iraniennes était organisée devant la Fontaine des Innocents, place du Châtelet à Paris. Chloé Lagadou y était pour Europe 1.
Beaucoup de drapeaux et de pancartes où il est écrit notamment « Femmes, vie, liberté ». Et sur un grand drap blanc accroché entre 2 poteaux électriques, les organisateurs ont dessiné un point fermé, levé en l'air. Symbole du soutien qu'ils apportent aux femmes iraniennes, explique Soma.
Il faut savoir qu'en Iran, la répression contre les femmes, c'est super systématique. On ne peut pas être silencieuse à cette situation-là en Europe, en exil. Voilà. On essaie de vraiment être la porte-parole et aussi la voix des gens qui sont dans la rue.
Dans la foule, Marie tient une pancarte. Elle a fui l'Iran pour rejoindre la France il y a 4 ans. C'est une évidence pour elle de soutenir ses compatriotes.
43 ans qu'on est en prison en Iran. Mais moi, je suis là, je suis tranquille ici, que je suis libre. La seule chose que je peux faire, c'est ça.
Et seconde, être la seule à manifester, près de 250 personnes se sont réunies ici à Châtelet. Parmi elles, Zahra. Cette féministe est indignée par la situation en Iran.
Pour soutenir les femmes iraniennes qui manifestent pour leurs droits, personne n'a le droit de contrôler notre corps. Ce qui se passe en Iran me touche, je me sens concernée, c'est pour ça que je suis là.
Et aujourd'hui, une nouvelle manifestation en soutien aux femmes iraniennes est prévue. Elle aura lieu à 16h sur la place du Trocadéro à Paris.
Le reportage de Chloé Lagadou et le principal parti réformateur d'Iran demande à l'État d'annuler l'obligation du port du voile. Depuis 1983 dans le pays, les femmes iraniennes et étrangères, quelle que soit leur religion, doivent sortir la tête voilée et le corps couvert.
6h35 sur Europe 1, ça y est, l'automne s'installe, la fraîcheur fait son retour et avec elle l'envie d'en manger des plats réconfortants.
Et oui, que diriez-vous d'une bonne choucroute à midi, Léna?
Je valide.
Si vous êtes amateur, mauvaise nouvelle. En Alsace, les plantations de choux ont souffert de la sécheresse historique de cet été. Les choux sont plus petits que d'habitude, alors il n'y aura sans doute pas de pénurie de choucroute cet hiver, mais elle devrait coûter un peu plus cher. Mélina Fachin, vous vous êtes rendue dans ce village du Bas-Rhin d'où provient 70% de la choucroute consommée en France.
Au milieu de ces 6 hectares de choux, Florent Hadès, producteur, ne peut que constater les effets de la sécheresse.
Ça, c'est un chou là, vous voyez. Une année normale, on tourne à peu près avec des têtes de 7-8 kilos. Et là, cette année, on tourne autour de 6. On a aussi des petites têtes qui ont seulement 4 kilos. Quoi. Le chou, il n'aime pas trop les grosses chaleurs. Au-dessus de 30 degrés, il n'aime pas du tout. Et donc, même avec l'irrigation, on le maintient en vie. Mais ils sont quand même un peu plus petits. Ouais.
La récolte ne se finit que fin novembre, début décembre. Un peu tôt, donc, pour se prononcer. Mais Sébastien Muller, dirigeant de la choucrouterie Le Pic, qui transforme les légumes d'une quinzaine de producteurs, table sur environ 25% de pertes par rapport à l'année dernière.
Les choux sont encore de taille convenable, mais on est effectivement proche de la limite. On arrivera à faire de la choucroute d'Alsace IGP. Pas de pénurie de choucroute pour l'instant. Il faut attendre le résultat final, mais c'est sûr qu'on est sur une récolte qui sera pas la meilleure du siècle.
Et avec ces charges et ces factures d'énergie qui explosent en ce moment, comme pour tout le monde, Pas le choix, la choucroute coûtera sans doute un peu plus cher cet hiver, autour de 40 centimes plus par kilo. Crotter Garsheim, Mélina Fachin, Europe 1.
Voilà les producteurs de fruits et légumes qui lancent un cri d'alarme. L'interprofession réclame la mise en place d'un bouclier énergétique.
Après toute cette choucroute, on a intérêt à aller faire du sport. Direction le Japon pour le Grand Prix de MotoGP.
Oui, 15e manche du championnat. Fabio Quartararo est toujours leader au classement des pilotes. Mais c'est un autre Français qui a su tirer son épingle du jeu hier lors des qualifications, Christopher Filhoc.
C'est ça, sous la pluie japonaise, c'est Johan Zarco, auteur d'une belle séance de qualification, qui se place deuxième. Il rate la première place pour seulement 0,2 seconde. Le Français, tout de même, avec en ligne de mire un podium, voire même une victoire, au micro de nos confrères de Canal+.
On va essayer de voir déjà les conditions. Si c'est humide, il y a possibilité de bien faire. Donc, à voir. Mais il y a de quoi jouer le podium et même penser à la victoire si tout se passe bien. Donc voilà.
Johan Zarco qui s'élancera derrière Marc Marquez. Pour l'Espagnol de Honda, c'est la première fois qu'il s'élancera en tête depuis, tenez-vous bien, le Grand Prix du Japon. C'était en 2019. Et puis pour le reste, les leaders du championnat du monde ont tous les trois été en difficulté. Fabio Quartararo n'a signé que le 9e temps. Mais le point positif pour le Français, c'est que ses adversaires n'ont pas vraiment fait mieux. Francesco Bagnaia a été à la dérive et parti à 12e. Quant à Alex Espargaro, il ne sera qu'à la 6e place. Le départ du Grand Prix, c'est ce matin à 8h, avec, on l'espère, un Fabio Quartararo qui aura les armes pour remonter au classement.
Les précisions de Christopher Filhoc pour Europe 1.
Merci Clément, à tout à l'heure.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Une météo maussade, nous dit ce matin Valérie Darmon.
Eh oui, même si le temps s'améliore près de la Méditerranée, et ce sont les seules régions où vous allez retrouver le soleil aujourd'hui, où vous pourrez utiliser la piscine. Ailleurs, c'est instable, notamment du Grand Est à l'Auvergne, à Rhône-Alpes, au Poitou, jusqu'aux Charentes et aussi sur le Piémont pyrénéen. Sur les autres régions, vous aurez un ciel variable, passagèrement menaçant, avec un risque d'ondées assez limité, ce sera le cas en région parisienne, sous des températures à peu près de saison. En nette hausse ce matin parce que ce week-end les nuits sont douces et surtout la couverture nuageuse est assez épaisse, donc elle fait comme un couvercle.
Alors Antoine qui nous suit assidûment nous dit qu'il fait 13 à Angers, ailleurs c'est comment?
Alors cet après-midi les valeurs elles vont osciller entre 15 à Saint-Étienne et 24 à Bastia avec 17 à Aurillac et Bourges, 18 à Grenoble et Lille, 19 degrés seulement à Gap et à Paris, 20 degrés à Tours et à Lorient et 21 degrés à Carcassonne. On est sous les normales de saison, de peu mais tout de même.
Merci beaucoup Valérie, rendez-vous à 7h. À tout de suite.
Tout de suite, l'entretien de Philippe Legrand avec Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Une date, une histoire, Philippe Legrand qui reçoit ce matin l'académicien Jean-Marie Roir. Il avait pris, vous le savez, la défense d'Omar Radad, qui se dit innocent dans l'affaire de l'assassinat de Ghislaine Marchal. La commission de révision donne sa réponse très bientôt, le 13 octobre, sur une éventuelle nouvelle procédure. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Retour en Afrique du Sud en 2013. Bonjour Jean-Marie Roir.
Bonjour Philippe.
L'Académie française est votre maison, vous qui aimez le vert académique tout autant que le bleu de la Méditerranée. Vu de la Corse, votre île de beauté inspirante, celle du souvenir de vos longues conversations avec votre ami Jean d'Ormesson. Jean-Marie Roir, l'écrivain aux nombreux prix littéraires, aux livres à succès, aux conférences dans le monde, l'histoire comme l'amour vous passionnent l'une et l'autre et vous les explorez jusqu'à en extraire des vérités. Justement, votre dernier livre, Omar, la fabrication d'une injustice, en dit long, le poids des mots pour réveiller les consciences. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur la disparition du président Nelson Mandela, qui fut lui aussi prisonnier de l'injustice. Le président Barack Obama témoigne au micro d'Europe 1.
Nelson Mandela vivait avec un certain idéal et il l'a accompli. Il a fait plus que ce qu'on pouvait attendre de n'importe quel homme et aujourd'hui il est parti. Nous avons perdu un homme influent, courageux et profondément bon, bien meilleur que nous.
Influent, courageux, bon, nous dit le président Barack Obama au moment de cette découverte, cette disparition, le 5 décembre 2013, la disparition de Nelson Mandela. Jean-Marie Roir, pourquoi avoir choisi cette date?
Parce que c'est certainement l'homme d'État du XXe siècle que j'admire le plus. Et d'ailleurs, on pourrait élargir. C'est un des hommes d'État de l'histoire pour lesquels j'ai la plus profonde admiration. Parce que vous savez, on n'est jamais au pouvoir impunément. Il y a toujours une dose de cynisme, il y a toujours une dose, disons, de réalisme un peu, disons, on fait le mal. Le pouvoir, c'est en général, on On y est arrivé par quelques turpitudes. Et là, il y a une pureté. C'est vraiment quelqu'un de chimiquement pur, absolument. Et il y a, et je pense que ça manque dans la déclaration d'Obama, une dimension spirituelle qu'il y a très rarement chez les hommes d'État.
Vous diriez, Jean-Marie Roy, qu'il est porté à la fois ce combattant par une foi intérieure ?
Bien sûr. Il y a une foi intérieure, il y a une espérance qui fait qu'il a augmenté le capital dont l'humanité a besoin. Vous savez, il y a tellement de choses dégueulasses autour de nous, en permanence, et il y a des hommes qui, subitement, nous permettent d'espérer dans l'homme par leur sacrifice, par la beauté de leur combat. Je pense aux moines de Tibérine, et je pense immédiatement après à Nelson Mandela, qui, lui, était dans la réalité. Et bien sûr, il a été un chef d'État assez extraordinaire, puisque...
Prisonnier d'abord. Hein,
oui, prisonnier.
Au milieu de ses combats.
Au milieu de ses combats. Et courageux. Et il a pensé mourir 1000 fois. Mais il s'est maintenu, il a maintenu son idéal. Et ce qu'il y a de formidable, c'est sa tolérance. Quand il a été libéré, il a serré la main de ses geôliers. Et surtout, il a été formidable quand il était question dans son parti de faire une forme d'épuration. Et dans cette épuration, d'éliminer, bien sûr, ce qui était la gloire sud-africaine. C'était l'équipe de rugby des Springboks. Et il a maintenu ces Springboks. Il considérait que ça faisait partie de l'idéal de son pays.
Jean-Marie Roy, il a écrit une partie de son histoire, justement, avec ce que l'on a appelé une victus. Cette volonté, au fond, d'accompagner l'équipe nationale et d'en faire des ambassadeurs, d'ailleurs, au fond, et de se promener en Afrique du Sud, d'aller partout, hein, et vraiment, et d'oublier absolument personne, pour, au fond, porter les couleurs de cet arc-en-ciel, de cette nation arc-en-ciel.
Oui, mais au-delà, cette absence de vengeance nous montre quelqu'un d'une dimension spirituelle qui fait que c'est un homme universel. Voilà, je crois que c'est un homme, c'est le plus bel exemple qu'on puisse trouver dans une vie politique où les hommes n'ont pas toujours été spirituellement supérieurs.
Vous avez aussi, au fond... autour de vous, un autre héros auquel vous avez consacré un livre qui est réédité, Omar, La fabrication d'une injustice aux éditions Bouquin. Le livre paraît et réédité avec une réactualisation, hein, dans plusieurs chapitres que vous avez ajoutés. Omar, lui, est plus discret, mais vous voyez aussi une forme, au fond, d'héroïsme chez lui, dans la résistance peut-être.
Bien, vous voyez, je n'y avais pas pensé, mais d'une certaine façon... ils ont la même forme d'héroïsme et la même forme d'acceptation du destin, sachant qu'au fond, leur combat les dépasse. Parce que Omar Radad, tout le monde le sait, est innocent. On le sait depuis le début, depuis 1991. Et je pense que cette commission de révision est vraiment décisive, parce que c'est elle qui va transmettre, ou ne pas transmettre, mais je pense qu'elle va le transmettre, à la cour de révision qui, elle seule, peut décider d'innocenter Omar ou de faire un nouveau procès. Et je pense que les juges ont conscience de l'enjeu, parce que en fait, c'est pas seulement un homme, c'est une affaire qui est une des affaires les plus célèbres du XXe siècle.
Jean-Marie Roy, en vous écoutant et dans ce que vous dites, on sent aussi une certaine gravité. Il y a, au fond, on le sent, la difficulté de reconnaître l'innocence lorsqu'elle peut être constatée. Et puis surtout, lorsque l'innocence est là et que l'on est face à un innocent, pendant ce temps-là, on peut penser que le coupable continue de courir et d'être libre.
Bien, c'est le grand danger. Si jamais Omar n'est pas innocenté, c'est le soupçon qui va peser sur la justice de se dire... À ce moment-là, peut-être qu'on empêche la révélation de l'innocence d'Omar pour dissimuler les vrais coupables. Ça serait le plus grand danger, je vous dis. C'est pour ça que c'est un enjeu énorme. Et moi, je fais confiance dans la justice, je fais confiance aux magistrats. Je pense qu'ils savent à quel point c'est une date importante pour Omar Radad, bien sûr, mais aussi pour la justice et pour la France.
Merci Jean-Marie Roy d'être venu sur Europe 1 ce matin avec vous. On est revenu sur ce 5 décembre 2013, la disparition de Nelson Mandela. Je rappelle le titre de votre livre, Omar, la fabrication d'une injustice aux éditions Bouquin. On va se quitter avec Garou qui nous chante, et ces deux circonstances, l'injustice. À bientôt. Europe.
Matin Week-end.
Léna Aigmonier.
Et à quasiment 7h10 sur Europe 1, on fait le point sur toute l'actu avec vous Clément Barguin.
Les électeurs italiens appelés aux urnes pour les élections législatives, la coalition de droite et d'extrême droite est donnée grande favorite du scrutin. Les bureaux de vote ferment à 21h, heure à laquelle les premiers résultats devraient être communiqués. Les manifestations contre l'offensive en Ukraine durement réprimées en Russie, plus de 700 personnes opposées à la mobilisation militaire partielle ont été arrêtées hier selon une ONG. Dans le même temps, Vladimir Poutine a signé un amendement prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les Russes refusant de prendre les armes. L'est du Canada frappé de plein fouet par l'ouragan Fiona. Arbres arrachés, maisons emportées, lignes électriques endommagées, les dégâts sont considérables. Une femme est portée disparue, emportée par les eaux. Et puis c'est encore rappé, la méga fusée Artemis restera clouée au sol. Elle devait décoller vers la Lune ce mardi, mais la tempête tropicale Ian, actuellement située au sud de la Jamaïque, pourrait se renforcer en ouragan dans les prochains jours et remonter vers la Floride où se trouve le pas de tir.
Merci Clément. Allez, dans une minute, on part en balade. Vanessa Zaza nous fait visiter Cherbourg à la découverte de cette très belle gare maritime. On ne le savait pas forcément, mais c'est le monument préféré des Français. Et puis Olivier Pouls nous donne sa recette facile du dimanche. Tout à l'heure, on va cuisiner des couteaux.
Europe Matin Week-end. Lénaïque Monnier.
La balade du dimanche, Vanessa Zaza, Olivier Pouls, bonjour, bonjour à tous les deux.
Bonjour
à tous. On met cap sur le Cotentin ce matin, Vanessa, pour aller à Cherbourg, qui est sous le feu des projecteurs cette année.
On peut même dire les feux de la rampe, je crois, parce que c'est les 20 ans de la Cité de la Mer, c'est le 110e anniversaire de la disparition du Titanic, qui avait fait escale à Cherbourg, et puis le 55e anniversaire du lancement du premier sous-marin nucléaire français, le Redoutable. Moi, je vous en avais parlé dans Destination Vacances, vous en souvenez, parce que c'était le seul sous-marin visitable au monde, et seul et toujours. Et alors la grosse cerise sur le gâteau, ça vient juste de tomber, le Redoutable et la gare maritime transatlantique de Cherbourg viennent d'être élus monument préféré des Français 2022. Merci monsieur Bern.
Voilà, une gare qui est imposante, qui date de quand d'ailleurs, on la voit, on l'imagine bien.
De 1933, petit résumé, alors un peu rapide mais bon, pas le choix. Il faut quand même savoir qu'il y a 50 millions d'Européens entre 1860 et les années 30 qui vont passer par Cherbourg pour rejoindre les Amériques. Et donc dès 1910, toutes les prestigieuses compagnies qui assurent ces liaisons comme la White Star Line ou Cunard Line exigent un port permanent, donc en eau profonde et à coller une grande gare. Donc ça peut paraître désuet aujourd'hui, mais avant c'était des petites bicoques en bois ou en béton. Alors j'ai demandé à Bernard Covin, qui est le fondateur, le président de la Cité de la Mer, un personnage absolument incroyable, qui a participé au sauvetage de ce mastodonte de l'histoire, de nous parler de cette gare qui était quand même révolutionnaire.
Ouais. Ça va être rapidement la plus grande construction française après Versailles et surtout le plus grand complexe transatlantique du monde. À la fois, les trains Paris-Cherbourg arrivent directement dans cette grande halle des trains, et ensuite, par des systèmes aujourd'hui qui peuvent apparaître tout naturels, mais les bagages et les passagers n'empruntaient pas les mêmes chemins pour accéder aux salons. Alors ces salons, c'est là toute la beauté, c'est que cette gare en 33, elle suit le Salon des Arts Décoratifs de Paris de 1925, et il va surtout imprimer l'art déco au sein de cette grande gare transatlantique. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui la seule gare transatlantique art déco qui subsiste en Europe.
Alors, elle va être mutilée en 1944. Elle va être restaurée en 1952. Mais jusqu'à la fin des années 60, parce que l'aviation va prendre évidemment le pas, mais on va la surnommer Notre-Dame des Queens.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, elle accueille les paquebots de la ligne Paris-New York. Donc, Queen Mary, le 1, Queen Mary Elizabeth 1. Et donc, qui transporte jusque dans ces superbes salons de la gare les plus grandes stars américaines. Les musiciens, les écrivains, les acteurs. Donc, c'est du Gary Cooper, du Burt Lancaster,
c'est du glamour,
Elizabeth
1.
C'est du glamour. Et même Charlie Chaplin. D'ailleurs, il fera sa conférence de presse sur le paquebot de la Cunard quand il est, vous savez, interdit de retour aux États-Unis puisqu'il est suspecté de sympathie communiste, puisqu'on est en plein macartisme.
Alors, où est-ce qu'on peut se loger si on va à Cherbourg, par exemple, ce week-end ?
Alors, il y a un hôtel avec vue sur le port, la Régence. Alors là, c'est une ambiance super british. Sinon, côté chambre d'hôte, il y a le manoir La Fief. Ça, c'est une belle demeure du 16e siècle, sur les hauteurs de Cherbourg.
D'accord.
Ils ont aussi un gîte, le gîte des Fougères, très élégant, dans une ancienne boulangerie tout en pierre. Et ça plairait à Olivier.
Alors, une boulangerie avec un petit beurre, alors doux, pour le coup, en Normandie, pas salé comme on aime en Bretagne, pour cuisiner, par exemple, les couteaux.
Oui, j'imagine que vous êtes déjà allé pêcher des couteaux.
Avec du sel. Ah oui, avec du sel, pas sel.
C'est vrai qu'on raconte que lorsqu'on met un petit peu de sel dans le trou qu'on a repéré, c'est un trou en forme de 8 dans le sable, le couteau, en fait, il a l'idée que la mer est en train de remonter Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il remonte et tac, on peut l'attraper. Parce qu'il faut savoir que le couteau, si on veut aller le pêcher, il se trouve évidemment sur la plage, dans le sable, mais une profondeur assez importante. Mm-hmm. Il est à 40-50 cm de profondeur. Donc, l'une des techniques pour l'attraper, c'est ça. Ou alors, creuser un trou directement. Moi, j'ai une dernière technique qui marche à tous les coups, c'est que je vais au marché les acheter.
Ça s'appelle la flemme, c'est la pratique, technique. Ça.
Alors, c'est moins fun, mais c'est très efficace. C'est pas trop cher, le couteau de mer. Ça coûte environ 10 euros le kilo. Ce qui est très important, c'est que vous les achetez au marché ou que vous les pêchez, il faut bien les faire dégorger. Ouais. C'est fondamental parce que s'il y a des grains de sable qui restent dans le couteau, c'est mal aux dents. Puis c'est pas bon et c'est même très désagréable. Donc on laisse les couteaux immergés dans de l'eau bien salée, 35 grammes de sel au litre, pendant 2, 3, 4 heures. Ouais. Si on voit une petite poche noire dans le couteau, on l'enlève, c'est l'intestin. Et en général, ça peut aussi être plein de sable. Et puis, après, il n'y a plus qu'à les préparer.
Alors, une fois qu'on s'est levé tôt, qu'on est allé au marché, qu'on a fait dégorger pendant 4 heures, comment on les cuisine?
Alors, je vous donne deux recettes, puisque j'ai commencé depuis le début de la saison. Vous en donnez deux, on ne va pas changer les habitudes. Bah parce que c'est très facile à faire, les couteaux. Il y a la traditionnelle persillade.
Évidemment.
Alors, persillade, c'est, on va prendre du beurre salé. On va prendre de l'ail, on va prendre du persil, le beurre mou, on va mélanger tout ça, on va réserver de côté. Et pendant ce temps, on va ouvrir nos couteaux. Alors pour ouvrir les couteaux, c'est très simple, un tout petit peu de matière grasse dans une poêle. On met les couteaux, on les jette, on ferme la poêle, on secoue bien. 30 secondes, tac, les couteaux s'ouvrent.
C'est facile.
Une fois qu'ils sont ouverts, on met un peu de la persillade par-dessus, dans un plat au four, un petit gratinage. Il ne faut pas que les couteaux soient trop cuits, parce que sinon ça devient vite caoutchouteux. Donc franchement, on y va vite. Et puis l'autre technique de préparation, c'est une version plus espagnole. On mange beaucoup de couteaux, notamment au Pays Basque aussi. Et là, on aime les accommoder avec de la tomate. On est en fin de saison, donc on trouve encore de belles tomates. Des petits morceaux de tomates, un petit coulis de tomates avec de l'ail. De la coriandre qui marche aussi très bien avec les couteaux. Et après, même technique pour les ouvrir. Mais voilà, la préparation qu'on va mettre dessus est différente. On peut aussi manger les couteaux crus.
Ah.
Et en tartare notamment. Il y a une association qui est amusante. C'est un tartare de veau avec des couteaux. Essayez ça si vous avez envie de. Il n'y a pas de risque.
Tartare de veau couteau. Intéressant comme alliage.
C'est un terre-mer qui est surprenant, mais franchement, ça marche extrêmement bien. Puis si vous n'avez pas envie de les préparer, vos couteaux,
j'allais vous le dire.
Vous pouvez aller les manger. Et là, je fais un petit clin d'œil à Christian Etchebest, qui est chef du Sud-Ouest, qui a sa fameuse cantine du Troquet, pas très loin d'ici, pas très loin d'Europe 1, dans le 15e arrondissement. Et toute l'année, il y a un de ses incontournables, ce sont les couteaux à la plancha. Pure merveille.
On y va aujourd'hui. Allez,
on y va.
Si vous voulez.
Bon appétit, bon dimanche, les infos arrivent. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, si vous vous réveillez, il est 7h.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Et à 7h, on retrouve Clotilde Dumais pour le journal. Bonjour Clotilde.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Dieu, patrie, famille, ce sera peut-être bientôt la devise de l'Italie. C'est en tout cas celle de Giorgia Meloni. Avec son parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, elle est donnée favorite des élections législatives qui débutent ce matin.
En France, on attend la présentation du budget 2023 et du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables. On verra d'ailleurs comment le deuxième peut influencer le premier.
Et puis dernier test avant le mondial pour les Bleus, ils affrontent le Danemark ce soir en Ligue des Nations.
Restez bien avec nous si vous êtes fan de Mylène Farmer. Dans la prochaine demi-heure, Mathieu Alterman vous dira tout ce que vous ne savez pas sur la chanteuse. On parlera aussi d'un très célèbre tube, mais lequel, de Stéphanie de Monaco avec Fabrice Lafitte. Mais avant cela, la météo, Valérie Darmon, une tendance?
Oui, moins d'averses et de pluie qu'hier. Retour d'un soleil généreux sur les régions méditerranéennes, un petit peu moins en Corse.
Et on regarde le ciel des régions à la fin du journal. Elle pourrait donc devenir la première femme à diriger l'Italie. C'est Giorgia Meloni qui est aux portes du pouvoir.
Son parti Fratelli d'Italia était en tête dans les derniers sondages alors que les bureaux de vote ouvrent à l'instant en Italie. Avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi, la coalition des droites pourrait donc permettre à Giorgia Meloni de devenir première ministre. Alors comment les Italiens perçoivent-ils celle qu'on présente comme une admiratrice de Mussolini? Reportage de notre envoyé spécial Frédéric Michel.
Laura est réceptionniste dans un hôtel du centre de Rome. Cet après-midi, en sortant du travail, elle ira voter et son bulletin, elle le réserve à Giorgia Meloni.
Non, ici c'est perçu comme droite avec des règles bien précises, mais pas extrêmes. Moi, j'espère vraiment un changement.
Gaïa, 40 ans, est employée dans une entreprise privée de Rome et ne voit pas d'un bon œil l'arrivée au pouvoir de celle qui fut la plus jeune députée et ministre d'Italie sous Berlusconi.
Je n'ai pas une bonne image d'elle, mais je sais que dans le pays, elle a beaucoup de succès. Elle me fait un peu peur. Le pouvoir de droite me fait toujours peur quand il devient extrême. Et c'est l'impression qu'elle me donne.
Cette jeune Italienne n'ira pas voter et ne semble pas inquiète de la percée du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia.
Cette idéologie, ça ne me plaît pas trop parce que je suis un peu moderne. Je la vois un peu comme une opposition, par exemple. Un peu comme Marine Le Pen chez vous.
Comme en France, beaucoup d'Italiens se détournent de la politique. L'abstention pourrait être forte ce dimanche. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit. Rome, Antonino Gallofaro, Frédéric Michel, Europe 1.
En France, le gouvernement, lui, se concentre sur son budget 2023.
Il sera présenté demain en Conseil des ministres. Dans le journal du dimanche, Gabriel Attal précise que le seuil des 3 000 milliards d'euros de dette sera franchi dans les prochaines semaines et qu'elle coûtera presque 52 milliards en 2023. Le ministre délégué aux comptes publics, qui n'exclut pas le recours au 49.3 pour faire adopter ce budget.
Et puis un autre projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables doit aussi être présenté demain en Conseil des ministres.
Les énergies renouvelables qui pourraient justement alléger le budget ou du moins, Baptiste Morin, financer une partie du bouclier tarifaire.
Oui, le bouclier tarifaire en 2023 coûtera 45 milliards d'euros, mais l'État va pouvoir alléger la facture de 29 milliards, et ce, grâce aux énergies renouvelables. C'est en grande partie le fruit d'un mécanisme de compensation. Longtemps, l'État a subventionné les énergies renouvelables. Au début, l'énergie solaire ou éolienne coûtait plus cher à produire qu'à vendre. L'État mettait donc la main à la poche pour soutenir cette filière. Avec l'envolée des prix notamment, l'énergie solaire ou éolienne se vend bien plus cher qu'elle ne coûte à produire. Désormais, l'État récupère donc une partie de son investissement, quelques 20 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 9 milliards d'euros de CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Normalement, l'État la verse chaque année en soutien, là aussi, aux énergies renouvelables. Mais cette année, eh bien, elles n'en ont pas besoin. Et voilà comment la note du bouclier tarifaire se réduit à 16 milliards d'euros.
Les précisions de Baptiste Morin.
Et des énergies renouvelables, on passe à un mode de transport totalement non polluant, c'est la voile.
Ah oui, puisque la route du Rhum démarre dans 6 semaines exactement. Et avant de prendre le large, le navigateur François Gabart fait le tour des écoles. Objectif, sensibiliser les enfants à la protection des océans et inaugurer une plateforme numérique pour travailler toute l'année sur cette thématique. À Puteaux, près de Paris, une classe de CE1 a rencontré le skipper. Reportage de Louise Salé.
Sur les murs de la classe de ces enfants captivés par leur invité, des cartes de la route du Rhum, une fresque d'algues et de poissons et des maquettes de bateaux. Aujourd'hui, ils ne perdent pas un mot de ce que leur confie François Gabart.
Je crois que c'est exactement à votre âge.
Tout seul,
un optimiste, un petit bateau.
Puis les élèves sortent de leur cartable des objets en plastique.
Qu'est-ce que t'as apporté comme objet, toi ?
Une bouteille. Le plastique, c'est horrible pour les océans. Si on n'a pas d'océan en bonne santé, eh ben on peut pas avoir de planète en bonne santé.
D'autres leçons suivront dans l'année sans François Gabart, dont l'aventure inspire la maîtresse Julia Mallet.
Ce projet, on peut l'utiliser dans toutes les matières, à la fois pendant les dictées, on parle des océans, de la voile, et puis en mathématiques, on fait des petits problèmes, et on voit vraiment que les enfants ils sont beaucoup plus attentifs.
Les CE1 ont aussi accès à une plateforme interactive avec des vidéos du navigateur, qui est reparti avec des dessins pour décorer son trimaran.
Le reportage de Louis Salé.
Et François Gabart, qu'on retrouvera dans la matinale de Dimitri Pavlenko pendant toute la durée de la Route du Rhum, course dont on parle évidemment d'ici quelques instants avec le tenant du titre, Francis Joyon, qui est mon invité juste après ce journal. En football, l'équipe de France, elle, veut continuer sur sa lancée, Clotilde.
Elle affronte le Danemark ce soir en Ligue des Nations. Objectif, une nouvelle victoire après le 2-0 infligé jeudi à l'Autriche pour rester dans l'élite de ce championnat. Et puis pour gagner en confiance, d'après le sélectionneur Didier Deschamps, pour ce dernier match avant le Mondial au Qatar.
J'en ai là pour la recherche de la performance. Et à partir du moment où si on obtient la performance, ben, l'objectif sera atteint. Évidemment, après, ça servira comme tous les matchs servent. Mais on va commencer le match pour faire les choses bien et obtenir le résultat qu'on veut. Maintenant, on a en face de nous une équipe danoise qui, elle aussi, joue une place en finale. Et c'est pour aller au Final Four, donc l'objectif à court terme est celui-là.
Le Danemark face à la France, ce sera à partir de 20h45 à suivre en direct dans Europe 1 Sport. Et puis toujours en Ligue des Nations, la Suisse a surpris l'Espagne hier de buts à 1. Elle tentera de se qualifier pour le carré final contre le Portugal. Ce sera mardi soir. Un mot de cyclisme, on va savoir dans quelques instants si Julian Alaphilippe va pouvoir décrocher un troisième titre de champion du monde en Australie. Ce sera quand même sans doute compliqué pour le Français qui a été blessé à plusieurs reprises cette saison. Il est actuellement dans le peloton à peu près 70 km de la ligne d'arrivée.
Oui, parce que ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on regarde la course en ce moment, même à la télévision avec Clotilde et toute l'équipe. Merci Clotilde, à tout à l'heure. Valérie, on regarde le ciel de nos régions, alors pas en Australie, mais plutôt chez nous en France.
Effectivement, et je commence par le ciel de la Bretagne, Hauts-de-France, avec des éclaircies qui s'imposent ce matin, malgré quelques averses sur la côte d'Opale, jusque sur le Pays de Caux, ainsi que sur le centre du Calvados. Sinon, ce sera plutôt très ensoleillé aujourd'hui sur la Bretagne et le Pays Nantais, donc des Pays de la Loire, et oui, bassin parisien, aux Ardennes. Après un début de matinée un petit peu hésitant, là vous profitez aussi d'une assez belle journée. Des Charentes au Grand Est, en passant par le centre Val-de-Loire, le ciel qui est souvent couvert avec quelques pluies éparses liées à une toute petite perturbation. Et puis le risque de pluie qui disparaît progressivement cet après-midi aussi. Dans le sud-ouest du bassin aquitain aux Pyrénées, après une matinée instable, vous retrouvez quelques éclaircies, sauf sur le piémont pyrénéen où l'ambiance reste humide et un petit peu maussade avec quelques pluies sur le Pays basque. Et puis du Grand Est à Auvergne, à Rhône-Alpes, à la Bourgogne, au Jura. Là, les averses sont plus fréquentes tout au long de la journée avec de la neige sur le nord des Alpes au-dessus de 2200 mètres. Et puis des températures un petit peu faiblardes, entre 17 et 20 degrés cet après-midi. Et puis grand soleil sur les régions méditerranéennes, grâce un petit peu au Mistral et à la Tramontane qui souffle à 60 km/h en rafale cet après-midi.
Et on adresse un salut amical à Flavienne, fidèle parmi les fidèles d'Europe Matin Week-end, et qui est du côté de la Bretagne, tiens, justement, dans le Finistère Sud. Et la Bretagne, on y reste et on y retourne dans un instant avec mon invité Francis Joyon. Il va prendre le départ de la Route du Rhum depuis Saint-Malo. Ce sera dans six semaines. Et vous le savez, il est le tenant du titre. À tout de suite.
Europe Matin Week-end. Léna Aigmonier.
On parle de voile ce matin sur Europe 1 avec la Route du Rhum qui se profile déjà, départ de Saint-Malo le 6 novembre prochain. Bonjour Francis Joyon.
Oui, bonjour.
On a beaucoup de chance de vous avoir ce matin puisque vous êtes tenant du titre de cette Route du Rhum en ultime. Vous vous engagez pour la 8e fois sur l'épreuve, 32 ans après votre toute première participation. Au moment où le débat sur la retraite à 65 ans est relancé, vous ne raccrochez pas. Qu'est-ce qui vous donne encore envie?
C'est la passion de la mer, la passion de la voile et aussi c'est une belle aventure, c'est une chose extraordinaire de prendre le départ de Saint-Malo, d'aller sur la Guadeloupe en novembre. Il se passe toujours plein de choses, il y a du mauvais temps, il y a du beau temps, il y a des alizés, il y a des dépressions qui nous arrivent dessus. Bon, je dis un peu dans le désordre, mais en gros, c'est un peu l'inconnu qui m'attire. Voilà.
Est-ce qu'on se prépare différemment quand c'est la huitième participation ?
On n'est jamais blasé de genre de préparatif. Je pense que j'arrive à un niveau de préparation qui est à peu près équivalent à ce que j'avais il y a 4 ans. Le bateau n'est pas tout jeune, il est dans sa 17e année et ça permet à la fois d'avoir une grande connaissance du bateau et à la fois de se dire il y a pas mal de petits trucs qui vieillissent, qu'il faut remplacer, il faut remettre des petits trucs validés, il faut faire des choix, savoir qu'est-ce qu'on remplace, qu'est-ce qu'on peut garder, qui est encore fiable. C'est un bateau qui a beaucoup vécu, qui a plusieurs tours du monde, qui a de nombreuses routes du Rhum et qui a toutes mes attentions.
Alors, est-ce que vous croyez, vous, pouvoir gagner cette Route du Rhum, là ?
Ah, on espère. On a toujours un petit espoir au fond du cœur, bien sûr, comme la dernière fois. J'avais un petit espoir au fond du cœur. Et bien sûr, on est tellement impressionnés par ces nouveaux bateaux volants, par ces énormes équipes, que forcément, l'inquiétude est là, la certitude de performance et pas forcément de mon côté puisque un bateau d'ancienne génération comme IDEC, c'est un bateau qui on est encore, par exemple, on est dehors à barrer, on est dehors à régler les voiles, tous les autres bateaux ont des cockpits complètement fermés. Il y a des choses qui sont un petit peu la préhistoire sur mon bateau, mais ça me plaît bien. Pareil, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'électronique, que ce soit un bateau un petit peu basique, C'est des choses qui me conviennent bien et qui fait que je reste très attaché à ce bateau.
Alors, la dernière édition, on en parlait hein, il y a un instant, elle avait réservé évidemment cette énorme surprise avec un François Gabart qui était en tête jusqu'au dernier bord. Vous, vous êtes allé chercher mètre après mètre en pleine nuit, en pleine pétole. Est-ce que vous le sentez revanchard, ce François Gabart là ?
J'ai beaucoup de sympathie pour François. Hein. Je trouve que c'est vraiment un grand sportif et j'étais hyper honoré d'avoir pu régater avec lui à ce niveau sur la dernière édition où on était vraiment au contact à touche-touche entre les deux bateaux. Et revanchard, non, bien sûr, il veut gagner, bien sûr.
Et vous aussi.
Bien sûr, je lui souhaite le meilleur, mais si je peux gagner aussi, je serai content aussi, voilà.
Alors justement, il y a un record à battre, 7 jours, 14h, 21 minutes, 47, il va tomber ?
Alors ça, on a aucune visibilité sur les conditions météo, on en saura plus au départ. On va dire que quand on prendra le départ, on aura quand même une idée si c'est une météo rapide pour aller sur la Guadeloupe, si c'est une météo lente comme ça arrivait quelquefois. Et au point où on en est, on peut vraiment pas savoir en fait. On espère toujours battre les records, mais c'est pas certain. C'est la mer et les vents qui décideront.
Alors c'est la 8e route du Rhum, hein, on le disait pour vous. Évidemment, on imagine que c'est votre course chouchou, votre course préférée. Pour quelle raison ?
Alors c'est vrai que j'ai commencé en 90 avec cette course. Et ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, beaucoup de découvertes. Et donc je retrouve un petit peu ce bain à chaque fois. Bon, c'est vrai que j'ai aussi de l'attachement pour Saint-Malo, pour la Guadeloupe. Tout ça fait que c'est une course qui reste chère à mon cœur, comme au cœur des 138 marins qui vont prendre le départ.
Et justement, est-ce que vous avez, alors peut-être pas sur votre toute dernière victoire parce qu'on vient d'en parler, mais un souvenir un peu plus marquant que les autres, quelque chose, un moment très très fort que vous avez vécu en mer sur cette Transat ?
J'ai connu des moments très forts, très négatifs. Hein. J'ai chaviré la fameuse édition 2002 où sur les 17 trimarans de 60 pieds, il n'y en a que 3 qui n'ont pas connu de chavirage, de dématage ou de dislocation complète. Hein. Donc moi, je me suis retrouvé pendant 5 jours à la dérive dans des conditions météo très dures, avec un bateau qui était en train de couler. Bon, c'est pas mon meilleur souvenir, mais j'ai aussi des très beaux souvenirs de moments vraiment agréables où le bateau glisse dans les alizés à bonne vitesse. Et voilà, ça reste des très, très, très beaux souvenirs.
Et il y en a beaucoup d'autres à bâtir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous sur Europe 1 ce matin. On vous souhaite bon vent, évidemment, même si vous ne partez pas tout de suite. J'imagine que vous êtes déjà un petit peu sur les flots à l'entraînement.
Oui, on navigue pas aujourd'hui, mais on naviguera lundi.
Voilà. D'accord.
On s'entraînera bien avec des vents un peu forts lundi, ça va être passionnant.
Ça va se muscler un petit peu. Bonne route à vous. Et vous le savez, si vous écoutez Europe 1 régulièrement, vous savez qu'on aime mettre les courses nautiques à l'honneur. On sera au départ de Saint-Malo le 6 novembre. On sera également à l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Et puis François Gabart, dont on parlait il y a un instant, interviendra chaque jour sur notre antenne.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Et à 7h17, il est temps de faire un point sur l'actualité avec Clotilde Dumay.
Je souhaite qu'il revienne dans le combat politique. Jean-Luc Mélenchon, toujours soutien d'Adrien Quatennens malgré la polémique. Sur France 2 hier soir, le chef des Insoumis a dit accepter la critique mais continue de défendre le député du Nord qui s'est mis en retrait du mouvement après avoir reconnu être à l'origine de violences conjugales sur sa femme. Dans le journal du dimanche, Fabien Roussel demande une tolérance zéro. Le chef du Parti communiste propose la mise en place d'un cadre national qui obligerait les organisations militantes à prendre des mesures de protection des victimes. L'âge de départ à la retraite, sujet de débat en France, mais aussi en Suisse. Un référendum est organisé chez nos voisins. Pour ou contre une retraite à 65 ans pour les femmes, ce serait un an de plus que pour le moment, mais autant que pour les hommes. Un autre référendum est également organisé, cette fois pour interdire l'élevage intensif en Suisse. La russophobie en Occident est sans précédent et grotesque. Les mots du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à la tribune des Nations Unies. 7 mois après le début de l'invasion en Ukraine, Moscou tente de reprendre le dessus sur le terrain. Le chef de la logistique militaire vient d'être limogé en pleine mobilisation de réservistes. Vladimir Poutine a également signé des amendements qui prévoient jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui désertent ou refusent le combat. Et 700 personnes ont été interpellées au cours de manifestations organisées pour protester contre cette mobilisation.
Merci Clotilde Dumay. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 7h30. Et puis dans un instant, si vous pensiez comme moi être absolument incollable sur Mylène Farmer, eh bien Mathieu Alterman va encore nous prouver que nous avions tort. À tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Lénaïque Monnier.
Mathieu Alterman vient de me rejoindre comme tous les dimanches. Bonjour Mathieu.
Bonjour Lénaïque.
Alors j'espère que vous avez bossé parce que je suis une absolue fan de Mylène Farmer. Et vous m'avez promis que je ne savais pas tout sur elle. J'attends de voir.
La star la plus secrète de la chanson française est de retour avec un nouveau single, À tout jamais. Préambule à un album qui paraîtra en novembre. Alors Mylène Farmer cache de nombreuses parts d'ombre. Elle est née Mylène Jeanne Gauthier au Québec et rien ne la destinait à la carrière de chanteuse. Entre 1980 et 1984, soit entre 20 et 23 ans, elle va prendre des cours de théâtre et surtout devenir l'égérie de plusieurs grandes campagnes publicitaires à la télé. Pour le loto, pour la caisse d'épargne, pour les ciseaux Fiskars, la lessive Le Chat Machine où elle déclame le fameux « Chat alors !» puis dans les catalogues Ikea rayon cuisine.
Bon, j'apprends déjà des choses. Alors tout ça est très loin de son image glacé et sophistiqué. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Jérôme Dahan et Laurent Boutonnat ont écrit une chanson « Maman a tort » en 1983 et sont à la recherche de quelqu'un pour l'interpréter. Ils organisent un casting où se présente Mylène Gauthier. Elle est retenue et change son nom en Mylène Farmer. Clin d'œil à l'actrice maudite des années 30, France Farmer, au destin tragique. Le succès est timide, mais au bout de quelques mois, finalement, la chanson passe sur les ondes et 100 000 45 tours sont vendus.
Et c'est là que ça déclenche son énorme carrière, Mathieu ?
Pas du tout. Le single suivant, toujours écrit par Jérôme Dahan, « On est tous des imbéciles », est un bide et ne sera jamais réédité. Chanson maudite et pourtant intéressante. Suite à cet échec, au revoir Jérôme, Mylène ne va travailler qu'avec Laurent Boutonnat et change de maison de disque. Le troisième disque, plus grand dire, ne marche pas tellement, mais aucune importance, c'est l'album à venir qui compte. La chanteuse se paye un nouveau look, teint ses cheveux en roux et s'impose avec son quatrième single accompagné d'un clip à la Barry Lyndon, ce sera Libertine.
Je suis
Et alors à ce moment-là, il n'y a plus rien qui l'arrête, hein, Mathieu, la concurrence est complètement éclipsée.
Bah, Jeanne Mas pourrait même dire « Mylène m'a tué », tant la réussite à la fois discographique et scénique est éclatante, cependant jonchée de drames. Le premier est artistique, hein, l'envie du duo Farmer-Boutonnat de s'accomplir au cinéma. Ce sera le film « Giorgino », sorti en 1994, mais 80 millions de francs de budget pour 68 000 entrées, ce sera l'un des plus gros bits de tous les temps, invisible pendant des années après ses trois semaines d'affiche.
C'était la dernière séquence.
L'autre drame sera d'un tout autre genre. En 1991, un fan pénètre dans le hall de sa maison de disques et désire la rencontrer. Puisqu'elle n'y est pas, il va tuer le réceptionniste d'un coup d'arme à feu, l'horreur.
Et la star va dorénavant se protéger, elle va s'isoler et se faire très très discrète. Hein.
Et n'apparaître que très rarement dans les médias, ou plutôt de façon très réfléchie. Elle s'autorise à écrire un conte pour enfants, Lisa Lou et le conteur, à collaborer avec Michel Onfray pour l'ouvrage L'étoile polaire, participe à un petit film d'horreur, mais sans pour autant renoncer à la démesure de ses tournées. Finalement, Mylène Farmer, elle fait ce qu'elle veut, et c'est pour ça qu'on l'aime. Bon dimanche.
Bon dimanche Mathieu, vous m'avez le fait. Voilà l'inimitable Mylène Farmer sur Europe 1 ce matin.
Europe 1.
Et à 7h24, on poursuit cette parenthèse musicale avec la note secrète de Fabrice Lafitte. Bonjour Fabrice.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
Alors ce matin, on va se replonger à la fin de l'année 85 avec le compositeur italien Romano Musumara. Il vient de terminer sa toute nouvelle mélodie intitulée « Comme Chopin ». Et il se cherche une interprète.
La première personne à qui il pense, c'est Jeanne Mas, avec qui il a signé le succès de toute première fois, un an plus tôt, en 1984. Mais elle refuse car cette musique est trop similaire à son succès du moment, Johnny Johnny. Romano Musumara se tourne alors vers Marie-Léonore, une chanteuse française qui a connu quelques succès d'estime à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Marie-Léonore écrit le texte et enregistre une maquette qui est envoyée à la maison de disques Carrère. Carrère propose alors cette chanson à Sheila qui n'y donne pas suite.
Et c'est ensuite Jean-François Michael, interprète du succès Adieu Jolie Candy en 69, qui va hériter du bébé.
En vérité, il ne souhaite pas la chanter. Mais c'est que la princesse monégasque Stéphanie veut se lancer dans une carrière musicale et lui fait écouter cette chanson. Stéphanie de Monaco l'accepte en gardant en intégralité le texte de Marie-Léonore. et c'est Jean-François Michael qui produit le 45 tours. Ce disque sort le jour des 21 ans de la princesse Stéphanie de Monaco, soit le 1er février 1986. Et à sa sortie, ce titre se classe en tête du top 50 d'Europe 1 et de Canal+, durant 6 semaines et se vend à plus d'un million d'exemplaires et un autre million d'exemplaires à l'étranger. Au passage, c'est la deuxième meilleure vente de l'année 1986 derrière Les Démons de Minuit du groupe toulousain Image. Quelques années plus tard, Michael Jackson, le roi de la pop en personne, tombe par hasard sur cette chanson. Il adore la voix de Stéphanie de Monaco et lui propose en 1991 de participer à l'un de ses titres de son album Dangerous. C'est plus précisément sur la troisième piste de ce disque, In the Closet. La princesse murmure quelques mots d'une voix langoureuse au tout début du morceau.
There's something I have to say to you. If you promise, you'll understand.
Mais si vous le voulez bien, retournons maintenant sur Ouragan et écoutons Stéphanie de Monaco.
Une nuit sans rêve, c'est ce qu'on ne vous souhaite pas, évidemment. On espère que vous passez une bonne matinée en notre compagnie. Il est quasiment 7h28. Le journal de Clément Barguin arrive, à tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
On est très heureux de vous accompagner en ce dimanche matin. Il est pile 7h30 et voici le journal présenté par Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Passage en force ou concertation, quelle méthode pour faire passer la réforme des retraites? L'exécutif se donne encore quelques jours pour trancher.
Poser des panneaux solaires sur son toit pour faire des économies en pleine crise énergétique, c'est une solution efficace pour faire baisser la facture.
Et puis c'est leur dernier match avant la Coupe du Monde au Qatar. Les Bleus affrontent ce soir le Danemark.
Au programme de la prochaine demi-heure, la une du journal dimanche, doit-on prendre Vladimir Poutine au sérieux? On verra aussi comment soigner ses dents sans trop dépenser avec Valérie Darmon. Et puis juste avant le journal de 8h, la chronique immobilier de Christophe Bordet. Bordet qui va nous parler ce matin de home staging. Avant de nous parler de dents, Valérie, vous nous parlez de temps.
Oui, sans transition, à part la rime. Temps instable, effectivement, avec quelques averses ici ou là résiduelles et des orages cet après-midi entre l'Auvergne et le Lyonnais.
Et on voit tout ça en détail à la fin du journal. Le gouvernement présente donc demain son projet de budget 2023 et ça promet d'être explosif si l'exécutif y introduit sa réforme des retraites.
Ouais, les tensions restent vives autour du sujet. Pour déminer le terrain, Emmanuel Macron se montre ouvert au dialogue. Le président et sa première ministre Elisabeth Borne réuniront la semaine prochaine une partie du gouvernement et de la majorité pour discuter de la méthode, Arthur Delaborde.
Oui, Emmanuel Macron temporise et veut montrer qu'il consulte. Cette réunion permettra de faire le point sur la nécessité et les enjeux de cette réforme des retraites, explique l'Élysée. Le Palais souligne que l'objectif est qu'elle soit adoptée coûte que coûte à l'été 2023. Mais pour le moment, plusieurs options sont encore sur la table, que ce soit un texte autonome d'ici le début de l'année prochaine ou un simple amendement d'ici Noël. Cette seconde hypothèse était jusqu'ici privilégiée, mais les critiques au sein même de sa majorité ces derniers jours ont fini par faire hésiter le chef de l'État. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, n'y est pas favorable, tandis que François Bayrou dénonce même un passage en force. Le patron du MoDem a prévenu que ses députés ne voteraient certainement pas un tel amendement. François Bayrou, qui aura l'occasion d'en parler directement à Emmanuel Macron, les deux hommes se verront vendredi à Pau. Le président ira inaugurer un complexe culturel dans la ville de son allié centriste.
Les précisions d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
À la France insoumise, la frère Quatennens n'en finit pas de faire des vagues.
Le soutien apporté par Jean-Luc Mélenchon au député du Nord qui a reconnu avoir giflé son épouse passe très mal en interne. Hier soir sur France 2, le leader de la France Insoumise a répondu aux attaques. Aucun regret ou presque.
Je pèse tous mes mots depuis le début. J'accepte qu'on me critique, j'accepte même que des gens me condamnent.
parce que je préfère ça que l'indifférence. Adrien Quatennens a donné cette gifle, il s'en est excusé, il l'a avoué, c'était il y a un an. On doit tenir compte du fait que cet homme s'amende en public, qu'il est dans une procédure de divorce et que toute la France se mêle de son divorce. Et je souhaite, moi, de toute façon, qu'il revienne dans le combat politique. Parce que c'est un homme, nuit et jour, au boulot, qui a cramé sa vie, qui a cramé sa jeunesse. Alors on peut toujours dire, ouais, c'est un député, etc. Non, il y a tous ces états de service. Elle, Céline, vous la considériez comme une victime. Vous lui avez demandé à elle si elle se pense victime ? C'est drôle, hein ? Depuis 8 jours, impossible d'appeler à la marche, impossible de parler de la marche du 16 octobre. Y a-t-il un lien entre l'affaire Quatennens et la réforme des retraites ? Aucun a priori. Quand on cherche, comme Emmanuel Macron, un trou de souris pour faire passer sa réforme, tout bouger dans le paysage politique intéresse. Je mets tout le monde au pied du mur.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, invité hier soir sur France 2, et vous l'avez entendu, leader de la France Insoumise, qui réitère son appel à manifester le 16 octobre prochain contre la vie chère.
Et à l'heure, Clément, où l'on cherche à faire des économies, installer des panneaux solaires sur notre toit peut être une solution efficace pour faire baisser la facture d'électricité.
Emmanuel Macron l'a évoqué jeudi à Saint-Nazaire lors de l'inauguration du premier parc éolien offshore du pays. La France doit passer à la vitesse supérieure sur la production des énergies renouvelables, notamment en développant le photovoltaïque. Certains n'ont pas attendu et aujourd'hui ils ne regrettent pas, comme dans cette entreprise du Morbihan à Arzal, le reportage de Charles Guyard.
Donc là on voit que les panneaux produisent l'électricité.
Chez Plastique de l'Estuaire à Arzal, Thierry Dubois est en admiration devant un boîtier sur lequel un voyant clignote, c'est un onduleur.
Il y a un système qui permet de faire de l'autoconsommation, sinon quand c'est pas consommé, ça bascule sur le réseau. Mais c'est génial.
Ce chef d'entreprise peut en effet se féliciter. Il y a un an, il a fait installer 160 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit de son entrepôt. Et aujourd'hui, en pleine crise de l'énergie, il est très loin de regretter son choix. Il faut dire que l'investissement de départ est gagnant à tous les coups.
Lorsque j'ai découvert cette possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit, je me disais qu'a priori, j'en avais pas besoin. Mais qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est une nécessité au même titre qu'un autre investissement dans l'entreprise. En fait, pour un peu plus de 30 000 euros d'installation, le tableau d'amortissement qui fait apparaître un bénéfice sur 20 ans de 90 000 euros. D'abord en autoconsommant et ensuite en revendant l'électricité.
Et avant la mise en route de ce système photovoltaïque, ce patron déboursait environ 600 euros par mois en électricité.
On a énormément de toits, de bâtiments industriels qui sont inutilisés. Il faut oser d'avoir des panneaux photovoltaïques.
Arzal, Charles Guyard, Europe 1.
7h35 sur Europe 1, quelques jours après la mobilisation militaire partielle, le président russe durcit le ton.
Vladimir Poutine a signé hier un amendement prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les Russes refusant de prendre les armes. Il facilite également l'accès à la nationalité russe pour les étrangers souhaitant s'engager. Près de 700 personnes auraient été arrêtées en Russie alors qu'elles participaient à des manifestations contre le régime.
Allez, on termine avec du football et les Bleus qui veulent terminer en beauté avant le Mondial au Qatar.
Ouais, l'équipe de France affronte le Danemark ce soir à Copenhague. C'est le dernier match en Ligue des Nations. Après avoir battu l'Autriche jeudi dernier au Stade de France 2-0, les Bleus veulent se rassurer malgré le contexte particulier et les blessés. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Danemark, terre qui aime autant le vélo que le ballon rond.
Oui, au pays du vélo, dans la capitale danoise qui a accueilli le grand départ du Tour de France 2022, l'équipe de France de football veut changer de braquet. Après avoir déraillé en juin, notamment face aux Danois, les Bleus veulent confirmer la belle impression laissée jeudi dernier. Et ce soir, c'est en quelque sorte une petite finale, une victoire. Et les Français seraient assurés de rester au sein de l'élite de la Ligue des Nations la saison prochaine. Mais Raphaël Varane voit beaucoup plus loin. Il pense déjà à la Coupe du Monde, car ce soir, c'est le dernier match des Français avant la compétition reine, rappelle le capitaine des Bleus.
Pour moi, l'objectif, c'est de se préparer. Il n'y aura pas de match amicaux avant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, chaque minute sur le terrain, chaque match, ça compte pour l'objectif Coupe du Monde.
Quant aux affaires extrasportives qui entourent ce rassemblement, Didier Deschamps assure que rien ni personne ne peut perturber sa tranquillité. Un match très attendu ici, le stade sera plein ce soir. Le demi-finaliste du dernier Euro sera soutenu par son public, habillé de rouge et de blanc.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1, France-Danemark. C'est donc à 20h45, match que vous pourrez suivre en intégralité sur Europe 1.
Et puis vous avez entendu le petit ding-ding du vélo, signe aussi de la course le championnat du monde de cyclisme sur piste. La course en ligne, c'est en ce moment. Julien Lafilippe tenant du titre. Il reste 3 tours. Hein, on espère vous donner les résultats très rapidement. Merci Clément. Valérie Darmon, le temps est maussade.
Et oui, les conditions sont dépressionnaires. On a un flux de nord-ouest très perturbé qui s'est mis en place vendredi sur l'Hexagone. Il vient se confronter à une masse d'air chaud remontant de Méditerranée. Donc les pluies et les orages d'hier finissent de s'évacuer ce matin vers l'Italie, ne touchant plus que le Morvan, le sud de la Bourgogne et l'est de l'Auvergne cet après-midi. Il neige aussi au-delà de 2200 mètres en Savoie. Et ces prochains jours, en haute montagne, dans les Alpes du Nord, la couche de neige pourrait atteindre 60 cm au-dessus de 2400 mètres, ce qui est assez exceptionnel pour un mois de septembre. Alors ce matin, le ciel est aussi chargé sur le Poitou, le Limousin, le Massif central et les régions du centre jusqu'en Alsace. Il pleut particulièrement donc du nord du Massif central aux Alpes du Nord. Quelques averses touchent aussi les côtes de la Manche, le Pays Basque et la Corse. Mais globalement, votre après-midi va se dérouler plus au sec qu'hier.
Et il fait quelle température rapidement ?
Alors entre 15 à Épinal cet après-midi et 23 à Marseille.
Merci beaucoup Valérie. Prochaine météo complète, ce sera à 8h. Bon. Et à 7h38, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Albouy. Bonjour.
Bonjour Lénaïque.
Directeur de la rédaction du Journal du Dimanche et ce week-end à la une, les derniers arbitrages financiers du gouvernement.
Nous sommes effectivement à la veille de la présentation du projet de loi de finances. Demain, en Conseil des ministres, seront examinées les grandes orientations budgétaires pour l'année 2023. Et nous avons recueilli les confidences de Gabriel Attal, ministre du Budget, qui est évidemment au cœur des dernières négociations. Le premier enseignement de cet entretien exclusif, c'est que le gouvernement est bien décidé à lancer sa réforme des retraites. Nous ferons la réforme parce que le régime est déficitaire à moyen terme. Que ce soit dans quelques semaines ou plus tard, le Parlement en débattra, assure Gabriel Attal. Il fait le pari qu'une partie de la droite suivra. Je le cite, « Sur le papier, entre notre groupe et celui des Républicains, il y a une majorité pour voter une réforme des retraites. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle, notamment celle des LR, se sont engagés sur un tel sujet. » Si chacun reste cohérent avec ses convictions, on trouvera une majorité. Alors évidemment, on peut penser que ces déclarations ressemblent à de la méthode Coué. Mais lorsque l'on pousse un peu le ministre dans ses retranchements et qu'on l'interroge sur l'utilisation du 49-3 qui permet l'adoption d'un texte sans vote, il ne fait aucun mystère de la position du gouvernement. Pour ceux qui en doutaient encore, le passage en force reste bien à l'ordre du jour.
Et il est également question dans cet entretien de lutte renforcée contre la fraude fiscale.
Oui, et là encore, Gabriel Attal ne cache pas qu'il répond par certaines de ses propositions aux députés LR qui ont demandé à aller plus loin dans ce registre. Il annonce notamment une mesure pour lutter contre la multiplication des arrêts maladie délivrés par téléconsultation par un docteur qui n'est pas le médecin traitant. Selon le ministre du Budget, ce type d'arrêt a coûté 100 millions d'euros l'année dernière. Gabriel Attal nous annonce qu'ils ne seront désormais plus remboursés par la Sécurité sociale parce que certains enchaînent les consultations en ligne jusqu'à trouver le médecin qui voudra bien leur délivrer un arrêt.
Et Stéphane, justement, dans le registre du détournement des nouvelles technologies, on découvre dans le journal cette affaire de vol de banque inédite.
Oui, la PJ de Reims a démantelé une équipe de cambrioleurs qui avait utilisé un mini-drone pour piller un distributeur automatique de billets. Figurez-vous que les truands sont parvenus à faire passer ce petit appareil par une trappe d'aération puis à le téléguider pour actionner un bouton poussoir qui déclenche l'ouverture de la porte du local technique. Ce sont les caméras de vidéosurveillance qui ont permis de comprendre comment les voleurs étaient parvenus à faire main basse sur les 150 000 euros que contenait le distributeur. Alors, même si on n'arrête pas le progrès, les cambrioleurs, eux, ont été interpellés et 4 suspects, dont le pilote du mini-drone, ont été placés en détention provisoire.
Merci Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Vous restez bien avec nous, on va retrouver d'ici une poignée de secondes Valérie Darmon pour nous parler de dents et Roland Pérez pour nous parler de taxes d'habitation. Ils vont vous donner tous les conseils. À tout de suite.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Et avec, comme chaque dimanche, Valérie Darmon et Roland Pérez. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Ça vous concerne, on va s'intéresser, Valérie, à quelque chose qui est important pour tout le monde. Les soins dentaires qui riment souvent, hélas, avec très cher. Bénéficier de soins de qualité pas trop cher, est-ce que c'est possible ou pas ?
Alors oui, bien sûr. On a beaucoup parlé de la réforme 100% santé qui permet de remplacer une dent sans débourser un centime. 6 millions de personnes sont concernées. Alors pour savoir qui y a droit, à quelles conditions, mon invitée ce matin est Sophie Kwan. Bonjour Sophie. Êtes. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du numéro spécial dent de 60 millions de consommateurs. Donc une question, qui a droit aux 100% santé, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, tout le monde a droit au 100% santé à condition d'avoir une mutuelle dite responsable. Alors, la mutuelle responsable, attention, les contrats les moins chers ne sont généralement pas dits responsables. Donc, quand vous contractez votre mutuelle, vous faites bien attention à cet aspect.
Donc si on prend une mutuelle chère et l'option la plus chère, on a le 100% santé qui est compris dedans systématiquement ?
Systématiquement.
Ok, ça c'est une info à savoir en tout cas.
C'est déjà une bonne chose. Alors comment est-ce qu'on choisit, Sophie, son dentiste quand on a la chance de pouvoir en choisir un ? On rappelle que dans certaines villes, c'est la croix et la bannière. Hein, en province, à la campagne et même à Paris en ce moment, c'est compliqué de trouver.
C'est une expérience vécue.
Oui.
Alors effectivement, c'est compliqué. Première chose, le bouche à oreille. Si vous avez des amis qui ont bien été soignés par un dentiste, suivez leurs conseils. Ensuite, regardez quel type de diplôme il peut avoir. Ça, le conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes peut vous dire si le diplôme, il est intéressant ou pas. Et ça, ça compte beaucoup, notamment dans le choix de certains centres dentaires, et on en reparlera.
Alors justement, on peut faire confiance aux centres dentaires, hein, qui fleurissent un petit peu partout.
Alors, il y a deux types de centres dentaires. Il y a les centres dentaires dits mutualistes. Ils sont liés aux mutuelles, donc ceux-là, ils montrent plutôt patte blanche. Et d'ailleurs, c'est un moyen, en vous adressant à votre mutuelle, de savoir si quels sont les centres dans lesquels vous pouvez aller. En revanche, les centres dentaires dits associatifs, là, il faut être plus méfiant. Il y a eu par le passé des abus terribles avec des victimes qui ont été assez traumatisées. Donc là, il faut bien faire attention aux centres que l'on choisit.
Et les hôpitaux universitaires, en quelques mots ?
Les hôpitaux universitaires, l'intérêt, c'est que ça permet d'avoir des soins bien moins chers. Vous serez soigné par des étudiants en dentisterie, supervisé par des professeurs qui sont des professionnels, donc pas de risque de ratage.
Merci beaucoup Sophie Kouane d'avoir été avec nous ce matin, rédactrice en chef au magazine 60 millions de consommateurs. Valérie, une question pour Roland, si on a été mal soigné par exemple ?
Oui, ben exactement. Qu'est-ce qu'on fait en cas de problème avec son dentiste, Roland ?
Alors, on peut s'adresser à l'Ordre national justement des chirurgiens dentistes. Vous allez sur le site internet qui est très bien fait, vous allez sur le portail patient et là vous allez être accompagné pour éventuellement une conciliation. Et puis si vraiment la conciliation c'est pas possible, adressez-vous à votre assurance, vous avez ce qu'on appelle une protection juridique et cette protection juridique va vous permettre d'être accompagné également dans ce litige avec le dentiste, avec la communication du dossier médical, une expertise par un médecin conseil et puis la suite devant le tribunal si vraiment aucun accord n'intervient.
Alors Roland, on vous tient, on vous garde. Il y a quelques jours, le ministre des Solidarités, qui est Jean-Christophe Combe, a annoncé une augmentation significative de l'aide destinée aux familles monoparentales. Rappelez-nous comment fonctionne ce soutien qui est nécessaire notamment aux parents isolés. Hein.
Oui, alors Lénaïque, je vous rappelle quelques chiffres parlants quand même. Plus de 40% des enfants mineurs qui vivent en famille monoparentale sont en dessous du seuil de pauvreté. Et dans un tiers de ces familles, le parent qui vit avec l'enfant est sans emploi. Autant vous dire que cette mesure était prioritaire pour le gouvernement. Alors l'aide dont on parle est une allocation de soutien familial qu'on appelle l'ASF, qui est versée aux parents qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants et qui ne reçoit de l'autre parent aucune contribution.
D'accord.
En d'autres termes, aucune pension alimentaire. Et donc cette aide qui existe à ce jour va être revalorisée de 50%.
Et le montant justement, on en parle Roland.
Alors ce nouveau montant va passer de 122,92 € à 184,38 € qui va être opérationnel dès le mois de novembre prochain. Alors je sais, hein, dit comme ça, les filles, ça paraît encore très faible, mais il faut rappeler que cette aide s'ajoute à d'autres aides comme les primes d'activité encore méconnues, les allocations logement ou encore bien sûr le RSA. Et cette aide parentale est versée par la CAF ou la Mutualité Agricole.
Oui, alors Roland, comment on obtient cette allocation ?
Il faut vivre seul, résider en France, avoir au moins un enfant à charge pour lequel l'autre parent ne verse aucune pension ou arrêter de le faire depuis plus d'un mois.
Alors donc, ceux qui touchent une pension très faible et par exemple inférieure au montant de l'aide allouée, ils ne peuvent pas prétendre à cette allocation de soutien.
Alors vous avez raison de le souligner, Lénaïque. En fait, si la pension alimentaire versée par l'autre parent est inférieure à ce montant, 188,92 € par enfant et par mois, eh bien le parent qui perçoit cette pension peut bénéficier également de l'aide.
Et merci Roland pour cette relative bonne nouvelle pour les familles qui sont en situation de précarité. On passe à présent à une autre bonne nouvelle dont bénéficient depuis 2020 80% des Français pour laquelle la taxe d'habitation a été supprimée. Et donc ça veut dire que 20% continuent à la payer.
Exactement. Et en 2022, seuls les foyers dits aisés, selon un revenu fiscal à consulter sur impots.gouv.fr, continuent à s'acquitter de cet impôt local sur leur résidence principale en sachant que cet impôt sera définitivement supprimé cette fois pour tout le monde, en 2023. En fait, pour ceux qui continuent à payer cette taxe, ils bénéficient cette année d'un dégrèvement de 65%, quel que soit le revenu.
Eh bien, merci beaucoup Roland pour toutes ces précisions. Merci à tous les deux. Vous restez bien sur Europe 1. On parle de home staging dans Bienvenue chez vous dans un instant avec Christophe Bordet. À tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Très bon dimanche à tous sur Europe 1. Il est 7h52, juste avant de retrouver Christophe Bordet pour faire du home staging. Le fil info, Clément Barguin.
La réforme des retraites se fera, c'est ce qu'annonce ce matin dans les colonnes du journal du dimanche Gabriel Attal. Le ministre délégué aux comptes publics n'exclut pas l'utilisation du 49.3. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne doivent recevoir cette semaine des membres du gouvernement et de la majorité pour trancher. Les manifestations contre l'offensive en Ukraine durement réprimée en Russie. Plus de 700 personnes opposés à la mobilisation militaire partielle ont été arrêtés hier selon une ONG. Dans le même temps, Vladimir Poutine a signé un amendement prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les Russes qui refusent de prendre les armes. La Corée du Nord a tiré cette nuit un missile balistique non identifié dans les eaux au large de sa côte orientale. C'est ce qu'affirme l'armée sud-coréenne quelques jours après l'arrivée dans la région d'un porte-avions américain à propulsion nucléaire pour des exercices. Et puis en rugby, le Stade toulousain se relance en balayant le Racing 92. 37 à 10. Toulouse s'empare provisoirement de la place de leader du top 14.
Et on continue de suivre en parallèle les mondiaux de cyclisme avec la course en ligne. C'est en ce moment en Australie avec Julien Lafilippe, hein, vous le savez, double tenant du titre qui pour l'instant n'est pas en tête de la course, mais on vous tient au courant très régulièrement. Bien sûr, à tout à l'heure Clément.
Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
Tous les dimanches avant le journal de 8h, des nouvelles de l'immobilier, du logement au sens large. C'est le moment avec, de retrouver Bienvenue chez vous sur Europe 1 avec Christophe Bordet. Bonjour Christophe.
Bonjour, bonjour.
Alors, trucs et astuces pour vendre son logement plus vite, voire évidemment plus cher. Vous n'êtes pas venu les mains vides ce matin. Quels sont vos conseils ?
Écoutez, j'en ai un qui trouve ses origines aux États-Unis. En 1972, une femme, Barb Schwartz, débarque dans l'immobilier, lance son agence et se dit qu'il faut donner un coup de pouce supplémentaire aux clients pour qu'ils vendent plus vite leurs biens. Et elle se dit aussi, il faut que je suscite le coup de cœur chez les acquéreurs. Elle a une idée, leur proposer du home staging, traduisez « mettre en valeur la maison ». Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la définition, j'en ai une plus complète encore avec une home stager, Pauline Moutardier.
Alors le home staging, c'est un terme anglo-saxon qui signifie mettre en scène sa maison à des fins commerciales. Donc c'est-à-dire qu'on la prépare pour la vente ou pour la location.
En clair, le bien à vendre ou à louer est vide et pour le mettre en valeur, le ou la home stager l'habille, le met en scène, lui donne une ambiance. Mais pas tout à fait la même et pas tout à fait de la même façon si l'on compare la France et ses voisins européens comme l'Espagne, Pauline Moutardier.
Alors en France, les homestagers utilisent surtout donc de vrais meubles. En Espagne, par exemple, on a souvent tendance à utiliser plutôt une décoration en carton qu'on recouvre bien entendu de couvertures, de draps, de coussins. Donc les Espagnols ont trouvé un petit peu cette idée, cette solution pour offrir un produit, un service abordable aux clients qui n'ont pas toujours une grosse somme à avancer, non, quand on parle homestaging. Et le rendu est très très bon.
Alors si je comprends bien Christophe, les acheteurs ou les futurs locataires français, eux ils préfèrent un décor éphémère mais avec des vrais meubles. Pourquoi ? Ça donne confiance ?
Bah c'est ça, nous sommes des amoureux, ça fait vrai, ça fait... Nous sommes des amoureux des belles choses, que voulez-vous que je vous dise ? Mais l'autre point important, ce sont les couleurs pour habiller justement l'appartement ou la maison en vente ou à la location.
La déco doit être neutre et en fait elle doit plaire au plus grand nombre de personnes possible. On essaye d'éviter les tons criards, donc du rouge, de l'orange, privilégier des tons plus neutres. Beaucoup de blanc, bien sûr, du beige, des couleurs plus reposantes aussi, plus agréables.
C'est vrai qu'on a du mal à imaginer une maison flashy, flashy, orange. Est-ce que ça permet vraiment de vendre plus vite ?
Oui, 7 fois plus vite.
Ah oui, quand même.
Oui, 7 fois plus vite. Et à un prix plus élevé qu'imaginé dans 60% des cas, dans 60% des ventes. Bref, le home staging coûte en moyenne entre 2000 et 3000 euros. Mais généralement, on récupère largement l'investissement à la cession du bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, ma chère Lénaïque, pour arrondir les fins de mois.
Je vais faire du home staging, mais moi je vais rester chez moi. Je reste à la maison. Merci Christophe, le journal de 8h arrive.